Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Mes chameaux, mes chamanes, j'enregistre cette intro de mon lieu de villégiature favori dont je parle dans mon livre. Il s'agit d'une petite île paradisiaque dans le golfe du Morbihan. La nana de mon père y possède une sublime maison. Là, elle n'est pas là, elle travaille à Paris. Donc je suis partie quelques jours avec mon père. Ça se passe très bien pour le moment. Je me demande si c'est grâce à mon livre ou pas. Mais là, il est plutôt cool et le cadre est idyllique. C'est somptueux, je me repose, je me baigne, je fais des grandes nages jusqu'à la bouée. Je reviens, je bouquine dans la chaise longue, je m'endors. Il fait beau, tout est beau, à perte de vue, l'air sent bon. Il n'y a pas de voiture sur l'île, c'est calme. J'essaie de passer outre le moindre souci, de tout oublier. J'échange pas mal de messages avec mes amis. Celle d'aujourd'hui dans le podcast est la comédienne Joséphine Dray, que vous connaissez certainement pour son rôle Émilie dans la série Netflix Planqueur. Donc Joséphine me raconte le casting en détail. On a aussi parlé de notre rencontre liée à Johan, aka Johan Cuny, aka Malo, du parcours de Joséphine, des castings pour les films d'auteur dans sa jeunesse, à la musique, au One Woman Show et aux chroniques. On s'est plaint de l'incertitude du métier de comédienne, même quand on a l'impression que ça avance bien, de l'éternelle injonction à la maigreur pour passer à l'image et du cap de la maternité. Et on a parlé judéité. On s'est lâché dans l'Ashkenazi. Ashkenaz, c'est les juifs d'Europe de l'Est et Sépharad, c'est les juifs d'Afrique du Nord. Joséphine est les deux. Elle est souffrance et joie. Vous verrez, c'est très drôle. Bonne écoute.
C'est bon.
C'était ouais, ambiance cosy.
Bah ouais, c'est plus
je
cosy.
Je vais régler un peu mon micro.
Je t'ai préparé un petit poème, Joséphine.
J'avoue, c'est pour ça que je suis venue. Non, je regarde. J'adore qu'on parle de moi.
Oui. Ma Joséphine, on s'est rencontrés à un casting. Tu connaissais déjà Johan, qui t'avait dit qu'on se ressemblait. Et c'est vrai qu'on a appris à se connaître et se trouver des similitudes. Toutes les deux comédiennes, mais aussi humoristes et chroniqueuses, toutes deux ashkénazes. Toi, moite-moite, un peu sèche aussi. Mais toutes deux névrosées. On se voit et on parle à chaque fois de nos projets d'écriture, de nos frustrations d'actrice aussi. Je te raconte les derniers essais cata, mes pires auditions. Tu fais des fêtes chez toi, tu ne perds pas l'objectif de réussir à me caser. On a passé quelques jours ensemble à Tel Aviv et c'était merveilleux. Tu y étais pour un tournage et moi en vacances pour voir de la famille. On avait mangé des glaces à Nevet Sedek, tu m'avais fait découvrir plein de lieux très cool. Mes cousins te connaissaient de Planqueur et tu commençais à réaliser le succès de la série. En as-tu vraiment pris toute l'ampleur aujourd'hui? Est-ce que ce succès incontesté t'a apaisé ou es-tu encore angoissée de ce que l'avenir nous réserve? Est-ce que devenir mère t'a changé? Est-ce que ça permet de relativiser? Je suis trop heureuse de te voir, Joséphine. On n'a jamais le temps, donc je me sers de l'occasion du podcast pour t'avoir. Merci de bien vouloir venir dans Les meufs que je veux ken.
Merci bien, merci Rosa. Et j'espère que tu veux me ken un peu aussi quand même. Aussi.
Bah évidemment.
C'est un peu la base de tes invitations. C'est d'abord que tu veux
d'abord
me ken.
Je ken.
Et ouais. Ensuite, tu dis des trucs sympas sur moi. Mais
bah
c'est
oui,
dans le but
oui.
Quand même de
bah
ken
oui.
À la fin. Ok, très
bah.
Bien. Jusque-là, rien d'anormal.
Mais tu sais, parfois, j'aime. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est problématique de dire que j'aime bien avoir des amis que je trouve belles?
Ah non, j'adore. Moi je pense que 99,9% de mes amis sont belles, plus belles que moi, mais toujours belles. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Mais tu te dis, est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est inconscient? Et en fait, elles sont toutes belles. Donc non, c'est pas du tout. Je trouve
ouais,
ça très
c'est
très
vrai
chouette.
Que c'est bien d'avoir des amis belles à regarder, quoi.
Complètement. Et l'inverse serait presque un peu malsain. Ça voudrait dire que tu voudrais finalement te dire, bon, je suis sûre qu'en soirée, je suis.
Ouais.
C'est sûr que c'est moi qui vais récolter, quoi.
Ouais, c'est clair. Il y a un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais.
Quand t'es la fille, genre la seule belle,
la
c'est
seule
un peu
belle.
Des sous-fifres, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Non, voilà. Moi, j'ai jamais été. J'ai plutôt été plutôt celle qui me mettait à la fin de la liste dans le groupe. C'est vrai. C'est mon tempérament.
Et là, t'as tourné avec Johan récemment.
Johan, ouais, c'est. Ouais. On a fait le deuxième sketch de Brood que je fais.
Okay.
Parce que j'avais. En fait, c'est l'histoire qui remonte. Bah, en fait, nous, quand Johan m'avait dit, tu ressembles à Rosa. À mon ex, il avait dit à l'époque, c'était quand je l'avais croisé sur le film d'Audrey Dana, qui s'appelle Si j'étais un homme, dans lequel ils avaient fait une intervention avec Yes Vous Aime.
Ouais.
Et on s'était croisés littéralement, on n'avait pas de scène ensemble, mais on s'était rencontrés un jour de tournage, on avait discuté avec Bertrand et Johan et Mustapha. Et ensuite, on s'est retrouvés l'été dernier sur un film qui s'appelle Jumeaux mais pas trop, avec Bertrand.
Okay.
Un film qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Il y a eu un prix à l'Alpe d'Huez dans lequel il partage l'affiche avec Ahmed Silla.
Ah oui, oui, oui.
Voilà, où ils font des jumeaux, un blanc, un noir.
Ok.
Ça promet de la comédie.
Oui, non, mais bien
française. En tout cas, c'est pour dire, voilà, c'est sur ce film-là qu'on s'est recroisé avec Bertrand. Et c'est suite à ça qu'il m'a appelé pour un sketch de
The Voice, là.
Ouais. Non, d'abord un autre. On en a fait un l'année d'avant où je faisais une journaliste qui faisait du fact-checking.
Ok.
Et ensuite, pour celui-là. Donc, toi,
ouais,
c'est sympa de temps en temps, quoi. Tous les...
Ouais, trop marrant.
Là, c'est comme ça que je les ai recroisés.
Ouais, tellement drôle. Bah, alors, moi, celui sur le fact-checking, je sais pas si je l'ai vu.
Un tout petit truc, c'était pour le coup, c'était moins mis en avant que l'autre, que The Voice.
Et vous avez tourné avec Baptiste Le Caplin aussi.
Voilà,
trop sympa.
Que je connais depuis très longtemps pour le coup. Baptiste,
ouais,
je connais depuis vraiment genre plus de 10 ans. On a fait un court-métrage ensemble où je le suçais.
Ah,
et d'ailleurs, à chaque fois, il m'en reparle dès qu'il m'envoie, il me dit quand même, ta bite, ton nez touchait ma bite, hein, quand même. Parce que ça l'a un peu genre traumatisé, slash excité, je pense.
Bah, bien sûr.
Et du coup, il m'en reparle tout le temps. Donc, il y a un court-métrage qui s'appelle La couille de Emmanuel Poulain-Arnaud, pour qui j'ai retourné 3 fois ensuite aussi. C'est un super réel. Donc voilà.
Ton nez a touché la bite de Baptiste Le Caplin.
Littéralement.
Ouais. Bah ouais.
À plusieurs reprises, vu que je devais le sucer, donc ça devait faire
des petits.
Donc, au lieu que ce soit ma bouche, c'était mon nez qui le suçait, en fait. mon nez a sucé Baptiste Le Caplin. C'est bien comme tagline.
Incroyable. Mais parfois, j'ai l'impression que t'as eu 100 vies.
Mm-hmm.
Tu connais.
Moi aussi.
Tu vois. Ouais,
ah, mais ça, c'est vrai. Je pense que j'ai eu 100 apparences aussi physiques.
Ok, ça je savais pas.
Tu savais pas parce qu'on s'est pas rencontrés forcément. On s'est rencontrés dans une période où j'étais un peu plus apaisée à ce niveau-là. Mais entre mes 16 et mes 30, j'ai eu toutes les apparences physiques. Notamment, j'ai été très maigre, très grosse, à très peu d'écart.
Okay. Enfin,
ce sont des événements qui m'ont traumatisée à vie parce que je pense que c'est des choses dont on se guérit jamais. Ça peut être un autre sujet de podcast, mais du coup j'ai été des gens m'ont connue très grosse, des gens m'ont connue très maigre, des gens m'ont connue grosse maigre et me battant en faisant un yo-yo permanent avec des plus 5 moins 5 toute l'année. Et depuis quelques années je me suis clairement stabilisée, ce que j'appelle par stabilisée, c'est-à-dire que je reste une éternelle gourmande et je peux pas m'empêcher de manger, mais on va dire que mon yo-yo il est beaucoup plus restreint. Maintenant c'est comme toutes les meufs entre guillemets à 2 kilos près, quoi.
Ouais. Voilà. Mais tu trouves pas ça violent quand même que genre dans la vie on est des meufs normales voire plutôt minces et qu'au cinéma on soit cataloguées comme rondes?
Terrible. Et d'ailleurs, mais c'est parce que la caméra fait prendre 5 kilos, l'objectif de la caméra grossit.
Ouais.
Donc quand tu apparais à l'écran normal, c'est que t'es maigre en vrai.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Nous on apparaît tout de suite ronde à l'écran, alors qu'en vrai on est genre gaulé en fait.
Bah ouais.
Pour la norme
bonne,
française,
quoi.
On est juste bien.
Exactement,
c'est vrai.
Ouais.
Et sauf que ça rend, tu vois, combien de fois je me suis dit, mais mon cul, j'ai quand même des formes, mais à l'écran, c'est genre, on ne voit que ça.
C'est l'enfer.
Jamais. Faudrait que je perde encore 5 kilos si
Mais oui, enfin, et en fait, ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait faire un 36, quoi.
À 34.
Ouais,
pour
34.
Être genre
pour
fine à l'écran.
Ouais, pour paraître normal.
Il faut faire un 34.
Quand des bras qui paraissent normales, en fait, en vrai, c'est des bras d'enfant, quoi.
Exactement.
Ouais.
Et c'est pour ça que parfois, maintenant, quand j'ai une déformation professionnelle, quand je vois une meuf très très mince, voire maigre à l'écran, je me dis, ouh, j'aimerais pas la rencontrer.
Ouais, elle doit être très 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 maigre.
Ouais. Et on ne citera pas de nom, mais on pense toujours un peu au même.
Enfin,
moi, je pense à 2-3 noms. Bon, on peut en dire un, je pense pas qu'elle écoutera Isabelle Huppert, je pense qu'elle doit être cadavérique.
Ah, tu crois?
Bah, à l'écran, elle est maigre à l'écran. On est d'accord.
Ah ouais, c'est vrai.
Elle te fait pas cet effet? Elle est très maigre, elle a des tout petits bras comme ça à l'écran.
Ah ouais.
Tu dis, mais en vrai, mais c'est quoi? Tu dois lui souffler dessus, elle tombe par terre, non?
J'avoue, pourquoi j'avais pas? Parce que je sais pas pourquoi, moi, ça me frappe plus chez les jeunes. Parce que je trouve qu'elle, en effet, bon.
Tu dis que c'est l'âge aussi qui fait.
Ouais, mais en effet, oui. Elle
ou Sarah Giraudeau, par exemple, que j'adore, hein.
Ah ouais,
elle est très maigre à l'écran.
Ah ouais,
aussi.
C'est vrai, elle est très maigre aussi à l'écran.
Ouais. Je me dis, ah si je la vois un jour, si je la rencontre un jour, je regarderai tout de suite si elle correspond à l'image.
Mais c'est vrai qu'on est déformé, c'est le premier truc qu'on regarde.
Ouais.
Toi, c'est dans les corps, c'est quoi le premier truc que tu regardes
dans
chez
un
les meufs?
Corps.
Ouais, chez une meuf.
Ses fesses.
Ah ouais.
Ses hanches, quoi.
Ses hanches.
Son bassin.
Moi, c'est ses bras.
Ouais. Ah ouais?
Ouais.
Ah, moi, pas du tout, justement.
Bah.
T'es complexée de tes bras?
De ouf.
C'est rare, hein?
Mais ça y est, j'ai pris rendez-vous là.
Mais tu sais que j'ai une copine qui est dans le même cas que toi.
Ah ouais?
Elle est complexée de tout le haut de son corps, ventre, bras et sein.
Ah, sein aussi? Elle veut se les faire rétrécir?
Elle a fait remonter comme des gants de toilette un peu.
Ah merde!
Mais toi, j'ai jamais remarqué que t'avais des bras, entre guillemets, à problème. Des bras à problème.
Je te montre.
Et là, en live.
Regarde.
Mais ça, c'est pas considérable. C'est que t'estimes que t'as trop de peau qui tend, mais fais juste du sport, ça, c'est le sport.
Ouais, je sais, mais en fait, même quand je fais du sport, ça change rien.
C'est un peu de famille aussi, ça, moi, de famille.
Ouais. J'ai toujours eu ça. À 12 ans, j'avais déjà ça. Je suis en train de tripoter mes ailes de Batman.
Oui, oui. Bah, c'est ça.
Et tu vois, non, toi, t'en as pas.
J'en ai moins.
Beaucoup moins.
Mais je fais quand même pas mal de sport aussi, hein, à ma décharge.
Ouais, ouais, mais on sent que t'as des petits bras toniques. Tu vois, ils sont toniques.
Bah c'est aussi c'est la maternité aussi. Hein.
Alors
parce
raconte
que tu passes ta life à tenir ton un gamin bébé de 11 kilos dans les bras, je peux dire, ça te fait les bras.
Il a quel âge maintenant?
Il a 16 mois.
16 mois ça... ouais. Attends, je sais jamais moi. 16 mois ça correspond à quoi?
Ça veut dire
un an et demi.
C'est presque un an et demi. Alors, c'est que nous, on parle encore, les mamans, ça parle en mois un peu. Ouais. Là. Mais c'est un an et demi quasi. Ouais.
Quasi,
il
donc.
Il est grand, il est costaud. Voilà, donc déjà, lui, il marche depuis 3 mois, mais du coup, il se fatigue vite. Donc, très vite, il veut que tu le prennes dans les bras, dans les escaliers et tout.
Ouais.
Donc,
et ça fait du sport. Ça fait
c'est
du sport
en continu.
Ah ouais, et ouais. Oh là là.
Tu sais ce qu'il te reste à faire, Rosa?
Oui, bébé, tu rigoles, j'en meurs d'envie.
C'est vrai.
Il sait dire maman?
Il sait dire, bien sûr, maman, papa depuis longtemps. Et après, il dit plein de petits. Des interjections aussi. Ouais. Il dit plutôt des arrêtes, comme ça. Arrête. Ou bien sinon. Il a des trucs comme ça. Il dit viens parfois. Oh. Il dit au revoir parfois. Oh. Pas tout le temps. Il fait au revoir. Oh. Mais voilà, il fait tous les bruits d'animaux.
Oh. Ok.
Tous. Quasi tous.
Attention, genre parce le que loup, ça, c'est un enfant qui peut devenir acteur.
Le lion, il fait. Ouais, il est très déjà dans l'expression.
Bruitage.
Il a beaucoup de gueule. Il fait beaucoup des grimaces. Parce que nous, on lui fait tout le temps des grimaces aussi. Oh. Voilà, il est hyper. Hyper moteur, hyper drôle. C'est vraiment l'amour de ma vie.
Tu m'étonnes, parce que je l'ai rencontré que tout petit bébé, quoi. Faut vraiment que je le vois.
C'est une autre personne, là, je te montrerai une photo.
Ah bah ouais, là, c'est un petit homme.
Ah oui, c'est un petit garçon, ça y est. J'arrive même plus à dire mon bébé, parce que c'est déjà c'est un petit gars.
Oh là là.
Mais je veux pas en faire un deuxième. Je sais que tout le monde me pose déjà la question depuis qu'il est né.
Ouais.
C'est déjà, je trouve ça, c'est un vrai problème
de
société.
Bizarre,
moi, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Les gens, ton gamin, il a genre un mois, il fait genre 8 cm et là, alors t'en veux un deuxième?
Incroyable.
Alors, comment te dire, j'ai encore mon épisio qui a pas séché, donc tu vas peut-être pas me demander si j'en veux un deuxième. Non, mais c'est fou quand même, ce truc.
C'est fou. Ouais.
C'est comme s'il y avait un conditionnement sociétal tellement fort sur le fait que c'est la famille, c'est la fratrie.
Ouais,
moi, j'étais 10 ans fille unique, j'ai aucun problème à envisager de pas faire un frère ou une sœur. Je le ferais pas pour ça, en tout cas.
Ouais.
Donc, c'est ce que je réponds quand on me dit t'en veux un deuxième et je suis là, bah, je me laisse la liberté d'en vouloir, hein.
Ouais.
Mais je ne le ferai jamais parce que je ressens une pression je peux pas le laisser seul, je dois lui offrir un frère, une sœur. Non, en tout cas, je vais pas remettre en question moi, ma vie et mes envies et mon bien-être, mon équilibre pour ça.
Bah ouais, puis c'est pas trop à la mode. J'ai l'impression que maintenant, les parents, il y a beaucoup, beaucoup de parents parisiens actifs qui font juste un enfant et en vrai, ça se passe bien.
Oui.
À notre époque, c'était mal vu. Un enfant unique, l'enfant unique était forcément névrosé.
Voilà,
alors qu'il y a plein d'enfants uniques qui sont géniaux, quoi. Qui
et
sont des gens,
des gens qui ont eu des
cinq frères et sœurs,
ou même moins, et qui sont juste
des gros connards. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de loi.
Non.
Et mais donc oui, tu te laisses ton envie à toi.
En tout cas, pour l'instant, j'en suis encore c'est quand même à 16 mois, un moment encore d'adaptation. Il dort pas très très bien toutes les nuits, donc je suis encore dans un truc de je suis pas en train de kiffer forcément ma vie partout.
Ouais.
Plein de choses, ça, ils sont plus laborieuses comme quand ils étaient tout petits, mais il y a encore plein d'autres choses où j'ai vraiment besoin de re-kiffer sur un vrai moment avant de me dire, comment c'était en fait avant quand c'était relou, tu vois. Je peux pas, je me dis encore ça de temps en temps.
Est-ce que t'es encore genre tout le temps fatiguée ou t'es sortie de ça?
J'ai jamais été forcément débordée et noyée, submergée. Oui, je le suis plus.
Okay.
Parce qu'il y a un moment submergent où tu te noies dans un verre d'eau parce que c'est tellement, tellement de choses
fatigue.
Différentes avec des informations pour un premier enfant, je veux dire.
Ouais.
À ingérer des infos sur comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quand il faut faire, combien, tu vois, combien de millilitres, combien de trucs, comment est-ce que tu commences à incorporer des trucs et faut lui mettre une couche en plus et la turbulette, c'est quelle. Il y a tellement de trucs à absorber qu'il y a un moment, t'as l'impression d'être en première année de médecine. Donc là, c'est un peu. Voilà. Et une fois, là, je suis sortie de ça.
Okay.
Maintenant, ça roule, il peut manger tout, comme les grands, c'est juste, les morceaux sont pas trop gros, voilà. voilà, des trucs un peu basiques, mais il peut manger, il peut
t'as
se débrouiller.
T'as pas peur de buter en perdre, pas
voilà, c'est
quoi.
Ça, ouais, exactement.
Ouais, il va pas mourir.
Tout va bien, voilà, il peut, ouais, il peut marcher avec moi s'il y a un problème. Enfin, on est dans un, c'est plus pareil. Par contre, je suis toujours tout le temps fatiguée. Quand t'as dit ça, ça m'a quand même sonné la cloche parce que je suis quand même toujours dans un état de fatigue permanente et de veille parce que je sais qu'il va pouvoir faire les dents, donc pendant 4 jours, il va pas bien dormir. S'il va chez son papy 2 jours, il le dérègle complètement parce qu'il fait tout l'inverse du rythme qu'on lui donne. Quand il revient, pendant 2 jours, il fait de la merde à la maison. Donc il y a toujours un truc de me dire, je peux pas me dire, allez, voilà, ma vie, c'est ça. C'est, je peux rentrer d'un dîner à 1h30 du mat. Si je fais ça, j'ai la boule dans la gorge parce que je sais que le lendemain, je vais le payer, que je vais être dégoûtée et défoncée, quoi.
Parce que t'es levée à 6h.
Voilà. 6 heures de, franchement, sa moyenne, c'est 6h30. Ouais. Donc si je vais pas, si je suis pas au lit à 22h, je peux pas venir.
Ah,
moi, après chacun, mon mec, il a besoin de moins de sommeil que moi, donc il tient mieux la route. Mais moi, naturellement, je suis un loir.
Ouais,
moi, je suis
une
loutre, mon animal totem étant la loutre. Il me faut minimum 8 à 9 heures pour être bien.
Ah putain, et t'es retournée en Israël avec lui ou pas?
Il n'est pas encore allé en Israël pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on lui a fait que tardivement son passeport, parce qu'on avait juste d'autres choses à foutre, c'est-à-dire juste faire qu'il soit dans le. Non, mais même juste s'occuper de lui. Faire un passeport à Paris, c'est assez relou, donc j'ai pas pensé tout de suite à le faire. Et quand j'y suis retournée, c'était que pour 4 jours, et donc c'était trop d'organisation pour si peu. Ça vaut le coup quand tu restes une semaine, 10 jours. Donc pas encore.
Et puis c'était fermé pendant tout un temps.
Et ça a été très. Exactement. Il ne pouvait pas pour des questions que les enfants n'étaient pas vaccinés et il n'autorisait que les gens vaccinés. Donc c'était, il était en fait incapable d'être reçu sur le territoire.
Et il est circoncis?
Mon mec était très, très opposé parce qu'il voulait que son fils ait le même sexe que lui.
Ah, et comment t'as réussi à convaincre ton mec que son
tout
fils
simplement,
n'aura pas la même bite que lui?
Ben, je vais te dire comment.
Ouais.
C'est simple. La semaine où j'ai rencontré Benjamin, mon conjoint, ça fait 11 ans qu'on est ensemble maintenant. Je lui ai dit la première semaine, mais comme c'est comme si tu disais à quelqu'un, je sais pas moi, est-ce que t'es sûr que t'es clean, t'as pas une MST? Ben moi la première semaine j'ai dit, ah oui au fait on se connaît pas, mais si un jour on a un enfant je sais pas quand, si c'est un garçon il sera circoncis, sinon tu me le dis tout de suite et je préfère même pas qu'on sorte ensemble. Je lui ai dit ça je pense au bout de 3 jours de relation.
Waouh!
C'est devenu d'ailleurs historique parce que c'était le truc où évidemment le gars a dit oui en pensant que je changerais d'avis, que j'oublierais, qu'on resterait pas ensemble, toutes les raisons du monde, sauf que c'est arrivé que finalement 11 ans après, on était ensemble et donc il a plus jamais pu se dédire, il avait donné sa parole. Mais j'ai quand même eu l'intelligence de demander au tout début, j'ai dit moi sinon je me serais barrée en fait.
Ah,
donc tu peux plus maintenant me la faire à l'envers.
Ouais.
Voilà, c'est grâce à ça que j'ai eu gain de cause.
Et ce que tu m'avais raconté, c'est que toi quand t'avais rencontré Benjamin, t'avais vraiment aussi l'envie de rencontrer le futur père de tes enfants.
Alors moi, quand j'ai rencontré Benjamin, j'avais 27 ans, ce qui n'est pas forcément très jeune, puisque j'avais jamais été en relation longue avant. J'avais de ma vie, alors j'ai beaucoup, beaucoup de mes amis qui étaient en couple pendant 3 ans, 4 ans, depuis leurs 17, 18, 20 ans. Ouais. Moi, je bavais d'envie depuis mes 16, 17 ans d'être en couple longue date. Et j'arrivais pas, je faisais des 2 mois, des 3 mois, des 6 mois max, une fois 9 mois, mais jamais je dépassais 1 an.
Ouais.
Et je faisais toujours, voilà, il y avait toujours un truc qui allait pas et je me barrais au moindre obstacle. J'étais quand même assez immature finalement. Mais je rêvais du fameux, de la relation posée, de construire et rien, et rien, rien. Sauf que 25, 26, 27, tu commences à dire, oh putain, tu vois le 30 clignoter. Et tu dis, putain, je suis bonne à jeter, quoi. Et donc je commençais vraiment à être angoissée, paniquée, obsessionnelle, obsédée. Et donc oui, je comprends, tu traduis ça de manière élégante en disant tu cherchais le père de tes enfants, mais je cherchais juste en fait à trouver quelqu'un avec qui je puisse me dire bah je suis pas une peine perdue en fait, je vais pas finir vieille fille seule en fait. Avant tout, avant de penser enfant, je pensais pas du tout enfant. Mais je pensais juste avec qui je puisse rester plus de quelques mois.
Et alors, est-ce que l'expérience d'accueillir un enfant au bout de 10 ans de relation, ça renforce le couple?
Moi, c'est ce que je conseille.
Ouais.
Moi, c'est un de mes conseils. Après, tout existe et tout marche. Hein. Je connais autant des gens qui ont fait un enfant au bout de 3 mois de relation, qui sont toujours ensemble au bout de 10 ans. Tout existe.
Ouais.
Moi, dans mon cas de figure, je pense que mon couple aurait volé en éclats si ça avait été au bout de 2 ans, de 1 an, je pense.
Ça vous a fait du bien?
Ça nous a fait du bien, ça nous a, en tout cas ça nous a pas fait de mal, alors qu'il y a des couples à qui ça fait du mal, on connaît
le
fameux cliché de on sait plus, on s'est oublié en tant que couple, on ne revit plus après le désir, au bout de 10 ans t'as, fin, déjà
t'as
un peu le tour de la question,
bien sûr.
Donc quelque part ton désir bien sûr qu'il est inébranlablement affaibli,
bien sûr.
Mais au moins t'as justement une base qui roule et c'était sur des rails évidemment qui sont pas le feu du début, mais du coup ça peut que faire des nouvelles.
Bah c'est que du plus un bébé.
Exactement.
Ouais. Est-ce qu'il y a pas un côté un peu où c'est aussi une poupée, un jeu avec lequel tu t'amuses à deux quoi?
Alors justement il y a de ça, il y a vachement de joie autour de ça, ça apporte énormément de joie justement. On découvre ses envies de faire des grimaces, de se faire des petits sketchs entre nous, et comme on est tous les deux avec mon conjoint assez créatif aussi, ça nous amuse d'être dans ça.
Ouais.
Ça fait aussi recirculer un truc nouveau. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est que du positif pour tout ça. Après, on s'oublie aussi beaucoup, voilà, parce qu'on est beaucoup dans penser à être là pour lui, qu'on n'a plus beaucoup de temps, on peut partir en l'impro, on peut plus faire de l'impro pour rien, quoi. Partir en week-end en impro, faut être sûr que papy peut le garder un jour, que nani, nani, tu vois, c'est tout devient.
Oui, tout devient de l'organisation.
Ouais, ça, c'est vraiment chiant.
Mais il n'y a pas, en effet, le, comment dire, la frustration de se dire, oh, on a laissé le grand amour derrière nous pour aimer le bébé. Non, au bout de 10 ans, de toute façon, le.
On était prêts à passer à une, dans une autre étape de notre couple, de toute façon.
C'est une chasse d'eau. Mais ouais, on dirait qu'il y a une chasse d'eau. Qu'est-ce que c'est?
C'est comme une chasse d'eau.
Attends,
ou une fuite?
C'est comme...
Non. Ah, ça le fait plus? Non, il n'y a plus rien là.
Bah, il y a un peu d'air qui passe, mais...
Mais ça fait plus ce bruit.
Ah ouais, c'était la porte qui était mal fermée.
Bah bravo. Bravo l'équipe technique.
Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ça, c'est un
donc,
de nos grands plaisirs,
bruit,
Joséphine.
Et maintenant, il
n'y
en a plus.
Nous, ce qu'on aime, c'est se plaindre parfois. Que notre
moi, c'est mon hobby. Hein, de
ah
plaindre.
Ouais.
De toute façon, je passe ma vie à me plaindre pour tout. Et même quand je n'ai pas de raison de me plaindre, il faut forcément que j'en trouve une.
Ça fait du bien.
C'est ça,
ça
être ashkénaze aussi. Hein.
Ah oui.
Tu te complais dans ça ou pas?
En tout cas, avec, j'aime bien, avec mes copines comédiennes, qu'on se dise, oh, c'est trop dur. Et tu vois qu'on se raconte les
injustices.
Les injustices,
terrible,
les looses d'attente
terrible.
Et de...
finalement, ça devait être moi, mais à la
et
dernière minute, en fait,
moi.
La chaîne a dit... Non, mais ça, mais c'est ma... non, mais ça m'angoisse rien que de... Mais ce podcast, disons que si à ce moment-là, de l'épisode, des gens qui ne sont pas comédiens nous écoutent, ils... pour eux, c'est du chinois.
Pas
ils
du
vont
tout.
Pas comprendre. Bah si, si on dit, ah, finalement, la chaîne te dit que... Ça, ils comprennent pas à quel point c'est... Cette violence, ils la... peuvent pas la comprendre si tu la vis pas.
Bah, en fait, je reçois pas mal d'acteurs et justement, c'est ça aussi le but du podcast. C'est
un peu écoutent, de... pas les gens de... que tu
non,
reçois.
Non, non, mais de... Le but, c'est un peu de démocratiser tout ça.
Tu veux aussi vulgariser cet univers.
Ouais, qu'en fait, il n'y ait pas que la vision, c'est génial, et bah, sur le tournage.
C'est loin d'être génial,
vois.
Ouais.
Et tu vois qu'on est un peu la, bah, justement la backstory en fait, de la loose, de ce qu'aucun acteur vraiment n'ose raconter en interview. Tu
surtout
vois.
De la réalité.
Et de la
c'est
réalité.
Avant tout le quotidien et la normalité des acteurs.
Mais
à
oui.
part si c'était Marion Cotillard aujourd'hui. Et elle-même, elle a
et
eu ses phases, elle aurait pu t'en parler
et même encore aujourd'hui, elle doit avoir des phases d'angoisse.
Elle
doit être en option sur des trucs. Enfin, tu vois, même je pense que ça s'arrête jamais, quoi.
Bien sûr que ça s'arrête jamais.
Est-ce que toi, c'est le truc que, justement qui t'a surpris, c'est que même là, avec le succès de Planqueur, en fait, eh ben, ça s'arrête jamais. Il y a toujours de nouvelles sources de stress.
Déjà, moi, naturellement, mon moteur, c'est la peur, l'angoisse qui me permet d'agir. C'est uniquement par peur. Donc, en fait, le problème, c'est que c'est un peu comme Sisyphe. Tu vois, je me vois toujours comme avec un gros rocher en train de pousser un gros rocher qui serait ma réussite potentielle.
Okay.
Sauf qu'à la fin de cette falaise, on va dire la hauteur de la falaise étant subjective. Au lieu de me dire, cool, c'est beau la vue en haut de cette falaise, je vais pousser mon rocher et revenir qu'à ce départ et remonter mon rocher. Je n'imagine jamais que je suis sur une pente ou un escalier ascendant à mon rythme. Hein, parce que je fais partie des gens qui sont là où ils sont en ayant monté une marche après une autre. Ce qui est finalement avec du recul est vraiment quelque chose qui était le mieux pour moi plutôt que de faire un énorme coup ou être révélé à 17 ans dans un film. Ouais. Tu vois, je pense que ça m'aurait pas réussi comme schéma. Donc maintenant, j'ai été pressée, j'ai été frustrée, j'ai été déçue. J'aurais aimé être César à 20 ans. Pour un... voilà. Maintenant, je me dis que c'était pas le bon chemin pour moi. Mais même en intégrant tout ça, j'ai toujours l'impression qu'après chaque projet, chaque truc que je rajoute dans mon sac à dos, je reviens à la case départ. Toujours. Donc c'est tout comme quand je faisais de la radio, j'avais le même trac au bout de ma 500e que ma première.
Ouais.
Ce qui finalement, ou pareil sur scène, au bout de ma 500e de spectacle, c'était la même que la première. Sauf que ça, en fait, c'est pas très sain non plus.
Ouais.
Ça veut dire que c'est comme si tu annulais ce
tout
que
le progrès.
Mon mec me dit toujours, mais Joséphine, retourne-toi, regarde factuellement
tout ce qui a été
les faits,
parcouru.
Regarde ton CV, regarde, tu vois bien que tu ne fais que
progresser.
Travailler plus, avoir plus de valeur, être plus appelé. Et en fait, je ne le vois pas, je ne le ressens pas. Pour moi, c'est comme si j'étais toujours sur le fil et je revenais toujours à un état. Donc, je pense un peu la réponse à ta question, c'est que Planqueur n'a absolument rien changé pour moi. Dans mon fort intérieur, après, je suis pas débile, j'ai un cerveau et je suis pas aveugle. Je vois bien que les gens me reconnaissent toujours dans la rue, que j'ai une notoriété évidente. Ça, je ne peux pas le nier.
Ouais.
Mais dans ma façon de me dire, ça me fait progresser dans ce métier ou avoir la chance d'avoir plus d'opportunités, d'être plus voulu ou plus où je sais que j'aurai plus de travail. Pas du tout. Mais zéro. J'ai la même peur, les mêmes angoisses, les mêmes... ça ne m'apaise en rien.
Parce que t'étais chroniqueuse à la radio sur France Inter, c'est ça?
Pendant 5 ans, j'étais chroniqueuse entre France Inter et Europe 1, avec parfois quelques mois de pause par-ci par-là, parfois pour des tournages, mais j'ai fait beaucoup d'émissions différentes. Donc oui, pendant 5 ans, j'ai pas mal gravité sur l'antenne de France Inter.
T'étais à la bande originale chez Nagui?
Alors ça, c'était vers là, c'est ma dernière partie de radio.
Okay.
Mais au début, j'ai commencé sur Europe 1, ma première expérience radio, dans Fête Centrée d'invité avec Michel Drucker. Ensuite, c'est lui qui m'avait repéré. J'étais invitée dans son émission et puis il m'a rappelé pour faire des chroniques.
Wow.
C'est grâce à à lui que j'ai fait de la radio en fait, parce que j'aurais jamais eu l'idée de faire ça.
Incroyable.
Et c'est lui qui a dit elle est marrante cette fille, tu sais pas qu'elle est... on cherche des filles pour l'émission, vous voulez pas essayer une chronique? J'ai essayé, j'en ai fait trois, ça a pas marché. Enfin j'en ai fait trois, mais la directrice de l'enquête de l'antenne de l'époque m'a dit écoute moi j'ai quand même vachement aimé ta participation. Elle m'a rappelé plusieurs mois plus tard pour remplacer Malik Bentala dans l'émission Le Grand Direct des médias pendant la grève d'été.
Ok.
Donc elle m'a dit voilà moi j'ai aimé, donc j'ai fait l'été. C'est comme ça que ça m'a été un vrai bel exercice de récurrence. J'ai aimé et après j'ai entendu parler du casting pour le changement d'antenne de l'émission de divertissement, donc qui est maintenant à la bande originale, mais qui à l'époque le 11h30 était animé par Frédéric Lopez. Ça s'appelait On va tous y passer. Et là, j'ai passé des auditions pour cette nouvelle émission dans laquelle je pense une centaine d'humoristes ont dû auditionner. Vraiment, je pense 80.
Ah bah ouais,
c'était
ouais.
C'était assez fou. Hein. Ouais. Et ils devaient constituer une bande d'humoristes et j'ai été choisie. Et là, je suis restée 2 ans dans cette émission.
Ok.
Plusieurs fois par semaine. Entre 1 à 3 fois selon les semaines. Et ensuite, après ces 2 ans, je suis passée dans l'émission. Enfin, j'ai été dans le 5-7. Donc très tôt le matin avec Yannick Delvaux. Et ensuite, j'ai été aussi en remplacement de l'émission de l'époque de Pascal Clark. À 9h, je faisais les remplacements ponctuels pendant les absences de Pascal quand c'était Clara Dupont-Mono qui l'a remplacée.
Okay.
Et là, elle m'appelait à ce moment-là, donc j'en faisais plusieurs fois dans l'année, en même temps que le 5-7. Ensuite, j'ai arrêté le 5-7 parce que j'étais partie en tournage et ils m'ont remplacée par Vincent Dedienne quand je suis partie. Parce que je suis partie longtemps et l'antenne a dit, ben non, il faut fidéliser le public, elle ne peut pas revenir comme ça. Et ensuite... Nagui m'a rappelé encore 1 an après, donc j'ai eu un an où j'ai pas fait, et il m'a rappelé, j'ai refait 1 an et demi dans la bande originale.
Ouais, donc quand même, toi, c'est toujours un parcours d'actrice où il y a eu quand même assez vite l'écriture.
Ah oui, toujours. Ouais. Puis mes spectacles, je les écris aussi. Donc oui, et la fiction, écrire pour moi, c'est le versant de la. Puis faire de la musique aussi, moi je fais de la musique aussi, et c'est des choses que je mets tout dans. C'est un tout en fait, c'est un puzzle, c'est pas l'un ne va pas sans l'autre.
Clara Dupont-Mono, vachement bien son bouquin.
Ouais, je l'ai pas lu en plus. Magnifique. J'aime bien cette femme en tout cas.
Hyper émouvant. Je lui ai écrit, faudrait que je réécrive. J'aimerais trop l'inviter aussi. Elle est forte.
C'est une chouette femme en tout cas.
Et de Diane aussi, bah trop fort. Dis donc quand même.
Oui, je l'ai jamais rencontrée par ce biais-là, parce qu'en fait on s'était croisés. Je l'avais écrit en disant bon passage en terre.
Ouais.
Et on s'était jamais. On a plein de gens en commun.
Ouais.
Mais je ne le connais pas finalement.
Mais de toutes ces expériences, est-ce que tu dirais quand même que d'un coup quand même le truc qui fait que c'est planqueur. Le truc.
Ah oui. Ouais. Ah bah, en termes de notoriété.
De notoriété,
c'est
ouais.
Indiscutable.
Ouais.
Ça veut dire que d'un coup, du jour au lendemain, c'est marrant quand on s'est vu à Tel Aviv, c'est là aussi que j'ai pris conscience que ça avait dépassé les frontières.
Ouais.
Parce qu'évidemment, à Paris, tu te doutes bien que s'il y a bien un endroit où ça va buzzer, c'est plutôt là.
Ouais.
Mais donc ça, c'est évident. Du jour au lendemain, tu tournes Instagram, prends 30 000 personnes.
C'est ça.
Et dans la rue, les gens t'arrêtent, se retournent, arrêtent de parler,
parlent d'un selfie.
Voilà. Un autographe, viennent te parler, viennent te dire... Et ça fait donc 4 ans que c'est tous les jours.
C'est ouf.
Tous les jours que Dieu fait.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû intégrer dans mon quotidien. Alors, c'est évident, c'est pas au niveau de Cadmerade ou d'Annie Moon, tu vois, ou d'Omar Sy, mais c'est en termes de récurrence, c'est partie intégrante de mon quotidien.
Ouais, ouais. Et parfois, c'est relou ou ça reste mignon
C'est arrivé que ce soit... Si, il y a des choses très reloues pour moi, parce qu'en fait, moi, je suis un peu quelqu'un, autant je peux être très excentrique et un peu même, je peux être sans gêne pour plein de trucs, mais j'ai un truc aussi avec la civilité, tu vois, le civisme. Par exemple, je supporte pas les gens qui grillent des feux aux piétons, je peux me jeter sur la caisse et taper dans une voiture de rage parce que je supporte pas ces petites incivilités.
Ouais.
Les gens qui bloquent les trottoirs et qui se mettent au milieu pour t'as envie de dire je suis avec une poussette, juste bouge ton cul quoi.
Ouais.
Je peux être un peu violente sur ça et donc dans ce cadre-là, c'est arrivé plusieurs fois que des gens soient mal polis mais peut-être sans se rendre compte, mais en tout cas à parler de toi en pensant que tu es comme dans une boîte ou dans une télé en fait, ils pensent que tu n'entends pas alors que tu es une personne en fait.
Putain,
et tu es dans un magasin et ils sont devant toi mais vraiment devant comme toi. Rosa, on est quoi à 35 cm là et ils font genre mais si c'est la fille de Planqueur, la fille de la
je suis là.
Nier mon existence, vous parlez de moi en ne venant pas me et donc ça parfois ça me fait chier.
Ouais, ça c'est vraiment très mal poli.
J'ai l'impression comme si à ce moment-là il me niait
pas,
voilà. Et ça arrive souvent quand même.
À part
ça, j'adore quand on vient de me dire à chaque fois, c'est toujours bienveillant, mais toujours hein, vraiment je pense que jamais personne m'a dit nul ta série de la jamais. Enfin, je touche du bois mais 0 fois.
Et là par contre, c'est fini, vous tournez plus de nouvelle saison ?
Non. Après on n'est pas à l'abri peut-être dans 1 an ou 2 de faire un film, un unitaire ou un truc qui puisse être
cool.
C'était un peu
comme Downton Abbey.
Voilà, on en a un peu parlé.
Ouais.
Mais comme ça, hein, de manière informelle.
Ouais.
Et ça pourrait, en tout cas. Mais c'est tout. Sinon, il n'y a plus de saison de série.
Ah ouais, parce que pourtant c'est un énorme succès et c'est 3 saisons.
Plus, alors, plus un épisode.
Plus l'épisode bonus.
Voilà.
Et ils n'ont pas voulu tirer le succès, se dire ah ben on fera 10 saisons d'un truc qui marche aussi bien.
Alors c'est pour plein de raisons différentes.
Okay.
Des raisons politiques aussi, enfin politiques, pardon, d'entente interne entre les talents et la production. C'est comme une grosse machine. Et je pense qu'on n'aurait pas pu tenir sur ce rythme-là
sur
très
Friends.
Longtemps.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Non, par rapport aux emplois du temps de chacun.
Ouais.
Voilà. Donc je pense que c'était intelligent de s'arrêter, même par rapport aussi à l'histoire, on se serait vite aussi essoufflé.
Ouais.
C'est pas non plus, voilà, c'est pas Friends,
ouais.
C'est pas non plus un sitcom.
Oui, c'est pas chronique en
non.
fait. Y a
c'était
une...
parti sur un, au début un truc fort, c'est pour ça que la deuxième saison pour moi était ratée par rapport au reste, parce qu'on est tombé dans l'écueil de. On avait plus de high concept, de trucs très forts, et en même temps on voulait présenter ces gens et leur vraie vie et, en tant qu'amis, et on a pas, je trouve que ça n'a pas été à la hauteur, et la saison 3 elle s'est rattrapée pour moi, elle est de meilleure qualité, parce qu'on a réussi à raccrocher les wagons avec des vraies problématiques sociétales et fortes. Et moderne et intéressante qui passe dans le cœur et la tête de tout le monde, et ça a permis de raccrocher vachement les gens, le public.
Ah, quelle expérience, c'est génial.
Ah oui, mais ce qui est fou aussi, c'est que pour revenir sur les histoires de comédiennes et de notoriété et de concept de réussite,
ou
de progression, c'est que par exemple, je sais que quand j'ai passé le casting, où c'est le rôle de, c'était 3 héroïnes pour les gens qui connaissent pas la série, hein. La série c'est 3 filles, on est les héroïnes, et dedans, enfin si tu veux, il y avait des castings, et donc évidemment première série française après Marseille qui avait bidé avec Depardieu là, Netflix France n'existait pas en France. Donc d'un coup tu reçois un casting, ton agent t'écrit série Netflix, c'est-à-dire tu te pisses dessus.
Ouais, mais
je
Hollywood.
Te dire voilà, c'est Hollywood. Si on me disait tu pars à Los Angeles, tu
mais
vois.
Ouais.
Et donc déjà t'as premier effet. Tout de suite qu'est-ce que je me dis moi, enfin moi en tant que moi qui suis Ashkenaz, qui n'est pas confiance en moi, c'est mais d'accord, mais genre c'est comme James Bond Girl, tout l'univers va le passer, donc pourquoi moi, impossible, trop de gens quoi, trop de rivalité, pourquoi moi parmi 300, tu vois. Donc t'y vas parce que bah tu dis jamais non à un casting.
Bien
mais
sûr.
Franchement t'y vas à la mort dans l'âme, jamais tu te dis une seconde et peut-être que donc si tu veux déjà t'y vas un peu comme à l'abattoir. Et en fait j'ai su après hein, que parce que la réalisatrice m'a dit hein, qu'il y avait énormément de filles qui avaient passé, c'était un gros casting. Et après ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque Netflix avait encore une liberté éditoriale qui n'est plus celle qu'ils ont aujourd'hui puisqu'ils ont tellement de contenu. Enfin, c'était le jour et la nuit. Il y a 5 ans, la production, c'était il y a 5 ans. Ils avaient 1/10 de ce qu'ils avaient sur la plateforme en diffusion. Et ben, ils pouvaient se permettre de dire, ben, en fait, nous, on peut prendre des gens pas connus parce qu'en fait, nous, la force, c'est le contenu et c'est nous, Netflix. Et nous, la star, c'est Netflix.
C'est ça, la plateforme.
Et donc, j'avais été prise. Alors, il se trouve que j'avais été prise parce que je sais pas, c'est un équilibre entre les 3 rôles. Au final, bon, j'ai eu de la chance, j'en sais rien. J'ai été prise. Mais j'ai su après qu'en fait, il y avait, je vais peut-être pas dire le nom et tout, mais il y avait, j'étais en ballotage, on n'était plus que 2 avec une fille très connue.
Mais non.
Et quand j'ai dit, tu te fous de ma gueule. Elle me dit, je te jure. Et Netflix a donné l'aval pour que ce soit moi, malgré le fait que c'était une affiche plus prestigieuse avec une autre fille. Et ce qui est marrant, l'ironie du sort, c'est que donc je me dis, c'est fou, j'aurais jamais dû être prise, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix, etc. Sauf que mon agent m'a dit, il y a quelques mois, il me dit, aujourd'hui, c'est tellement plus ça. Que tu passerais le casting de Planqueur aujourd'hui, tu ne l'aurais pas.
Ça serait la meuf connue.
Oui, ce serait pas toi. Donc c'est fou de te dire aussi que c'était aussi un instant,
un temps,
un moment, une heure, un jour, et qu'il y a, c'est aussi ça, tu vois.
C'est ouf.
Mais c'était timing. C'est...
On était en Israël et en effet, il y avait les gens qui, il y avait mes cousins qui étaient fans de toi, qui étaient hyper émus.
Les expatriés en général, j'ai beaucoup de messages de gens. Ah, ça me rappelle Paris, ça me rappelle chez moi, ça me beaucoup
mais
de.
Mais eux même pas, ils connaissaient même pas la France, ils parlaient pas français quoi. Mais ils étaient. Mais et résultat, quand tu voyages, les gens.
Ouais, même au Japon,
c'est génial.
En Angleterre.
Et ça va être adapté comme 10%, vous savez, s'il va y avoir des versions.
Non, ils ont juste les sous-titres en fait. Ils le voient, ils le visionnent
mais
en original.
Mais ils vont pas refaire la série avec.
Mais oui, c'est vrai que c'est assez fou parce que n'importe où je vais, ça touche des gens. En plus, parfois, pas toujours. Évidemment, le cœur de cible, c'est les jeunes filles, on va pas se leurrer.
Ouais.
Mais parfois, rien à voir. Un mec de 60 ans, des ados, des petits gars de 13 ans, t'es là. Mais toi, tu regardes Planqueur. trop bien, madame, vous jouez trop bien. Parfois, il y a des fois, tu sais pas.
C'est dingue. Et est-ce que maintenant, quand même, tu sens que quand t'es reçu en casting, bon, ça va, maintenant, les gens sont un tout petit peu plus...
Ça dépend. T'as toujours des trucs qui te font te dire non. Non, mais attends, franchement, c'est terrible dans ce métier. C'est que justement, tu peux jamais te reposer sur rien. Tu peux autant être hyper, comme ressentir à certains égards, que j'ai maintenant j'ai aussi des propositions en direct pour des projets où on propose directement
le rôle
sans casting. Et ça fait extrêmement plaisir. Et ça, on sait à quel point c'est un Graal.
Totalement.
Pour les comédiens.
C'est le Graal.
Voilà.
C'est le Graal.
C'est ça. Alors moi, j'en suis au demi-graal, c'est-à-dire qu'on me propose des trucs en direct, mais pas pour des rôles très, 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 très importants. Ça m'est arrivé, mais c'était que des réels avec qui j'avais déjà travaillé.
Ok.
Donc, c'est déjà hyper gratifiant. Mais aussi, je me dis, non, ce serait qu'on me propose des trucs en direct pour des trucs, des projets que je trouve incroyables et dont, oui. avec des gens avec qui je rêve de travailler.
Ouais, et des
ça,
premiers
c'est raccorder
rôles.
Le. Ouais, tu vois, ouais. si on m'appelle demain pour le prochain film de Bruno Podalides parce qu'il me propose en direct, là, c'est le Graal.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est juste que là, je suis pas exactement à cet endroit-là, mais voilà, c'est mieux que pas.
Mais est-ce qu'il y a un truc où c'est le monde autour qui d'un coup se met en. Comment dire? Qui step up? Est-ce que c'est pas aussi toi qui dois. Est-ce que tu sens le moment où t'es là, bah ça maintenant, non, ça, ça ne m'intéresse plus? Est-ce que t'as senti ce basculement de dire, ah oh, bah je crois que ce rôle, voilà, c'est trop petit pour. Enfin, c'est
non,
pas un truc
c'est
que...
pas comme ça. C'est plus parce que moi, ce qui me fait toujours rire dans les projets, et aujourd'hui, et toujours, et ça se voit dans mon CV, c'est que je fais rien pour l'argent. Mmh. Ça, c'est très important. C'est une ligne. Conductrice que je, tant que je peux me permettre, c'est un luxe, hein. Tant que je peux me permettre d'avoir de l'argent de côté pour payer mes factures, j'ai le luxe de ne pas faire un choix parce que c'est bien payé, par exemple. Je ne fais pas ça, donc je peux autant privilégier des rôles payés à 300 balles, enfin le tarif syndical, qui est le, je précise, le tarif syndical. J'accepterai pas pour une raison comme ça, donc je suis pas aveuglée par l'argent pour le choix, mais aussi ce que je fais toujours et que j'adore, c'est que pour moi c'est le rôle qui prime et c'est la scène ou les scènes qui priment, donc je peux aussi toujours aujourd'hui accepter un jour. Ouais. Une scène dans un film.
Ouais.
Tu vois, la semaine prochaine, je tourne dans le film de Michael Youn, une scène, mais qui est très drôle.
Ouais, ouais, qui est très marrant.
Et moi, ça me va très bien.
Mais oui,
et
oui.
lui, il s'excuse 10 fois, mais j'ai rien de plus gros, j'ai honte, mais jamais. Et moi, je suis là, mais pas du tout, je lis le truc, ça me fait marrer.
Ouais.
Je suis là, mais je le fais avec grand plaisir.
Ouais.
Oh là là, mais merci. Et en fait, moi, je trouve que ça devrait toujours être comme ça. Moi, pour moi, Omar Sy, il devrait pouvoir toujours faire une scène dans un film, en fait.
Ouais.
Parce que si la scène le fait marrer ou le touche ou j'en sais rien, ça reste son métier. En fait, il est comédien, il viendra jouer une scène, mais il fait son métier.
Carrément.
C'est pas que se dire, bah non, je suis Omar Sy, donc en dessous de, d'un rôle principal, faut pas m'appeler.
Ouais.
Moi, je trouve ça hyper pauvre comme façon de penser. Et en fait, les gens, ils pensent à ta place comme ça. Plein de fois, des gens venaient me dire,
ah oui.
j'ai fait un film, je suis là, ah ouais, trop bien et tout. Ouais, j'ai pas osé t'appeler parce qu'il y avait que deux. T'es là, mais t'aurais trop dur, en
bah,
fait.
Bah grave.
Enfin, moi, c'est ma façon de penser. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent pas comme ça, mais...
Si, si, tu me fais penser qu'il faut que je réponde à un gars qui m'a envoyé son court-métrage, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais est-ce que t'as fait des stratégies où tu t'es dit, ah tiens, bon, bah après planqueur,
j'ai jamais fait aucune stratégie. Et sache que toutes les stratégies que j'ai pu, ou que mon mec, parce que c'est souvent lui qui a les stratégies pour moi, aucune ne se vérifie.
Ouais.
Dans un sens comme dans l'autre. Hein. Mais c'est ça qui est magique et parfois terriblement frustrant dans ces métiers, c'est qu'on ne peut jamais contrôler.
Ouais.
Rien.
C'est toi qui me disais que tu voulais faire plus. Attends, tu me disais pas que tu voulais faire plus de cinéma d'auteur?
Ah ouais, ouais, j'adore. Ouais. Moi, je viens de là à la base. Et parce que je suis montée sur scène et que j'ai fait de l'humour, peut-être que toi-même, t'as dû, tu peux. C'est un sujet de discussion. C'est que je viens du cinéma d'auteur. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé ce métier très jeune. Et de 16 à 20 ans, j'ai fait que des castings pour des films d'auteur. J'étais souvent la deuxième, parce que le fameux syndrome d'être la deuxième aussi pour les comédiens, ça pourra leur parler. Mais toujours le deuxième, donc c'est horrible.
Mmh.
C'est la pire punition. Tu préférerais avoir été éjecté tout de suite que d'être le deuxième.
Et oui, parce que tu fais 3 callbacks, tu rencontres
voilà,
tout le monde.
Et voilà, tu commences à t'attacher, à fantasmer. Tu tombes, en fait, plus tu reviens, plus tu montes des étages et tu sautes après de plus haut. Mmh. C'est ça ma métaphore visuelle. Donc c'est toujours très violent. Et j'ai été toujours l'éternel pendant toutes ces années de films d'auteurs, que des films de Berco, de Cédric Kahn, des trucs, tu sais, des films vus par 5 personnes à l'époque, mais j'étais vue comme ça. Jeune, tu vois, jeune fille, un peu, tu vois, un peu diaphane et tout. Donc j'ai fait ça. Donc, je pense que toi aussi, t'as été un peu dans ce secteur-là, jeune, enfin jeune fille, quoi. Et à 26 ans, je monte sur scène avec un spectacle d'humour, et bon, certes musical, mais d'humour. Et d'humour où... je cachais pas, voilà, j'étais un peu, je disais ce que j'avais envie de dire, donc j'avais un truc un peu, voilà, pas trash, c'est pas le mot, j'aime pas le mot trash, mais tu vois ce que je veux dire. Et pas un humour d'antello, on va dire.
Ouais.
J'étais pas bigard non plus, mais tu vois, un truc un peu, voilà, un peu, ça s'appelait Joséphine Hose, donc tu vois, j'y allais quand même.
Ouais.
Et du jour au lendemain, j'ai été mise dans la, enfin, peut-être aussi parce qu'on est en France, malheureusement, mais j'étais mise dans la catégorie
comédie.
La fille qui fait de l'humour, voilà. Donc elle nous fait bien marrer, les gros sabots, nanana.
Ouais.
Donc là, du jour au lendemain, toutes les directrices de casting de films d'auteur m'ont
comédies.
Blacklistée.
Ah ouais.
Mais littéralement, j'étais sortie du fichier.
Tain, c'est ouf.
Et on s'est mis, certes, à m'appeler pour des chroniques d'humour, des comédies un peu, entre guillemets, pas à toi, les Philippe Lachaud, des trucs avec du gros humour assumé.
Ouais.
Parce que d'un coup, j'étais devenue cette comédienne-là. Parce que j'avais osé me montrer et faire rire des gens. Oh mon Dieu, sacrilège. Et depuis, je rame
pour
rétro-pédaler pour me dire, je veux un entre-deux, en fait.
Ouais, ouais,
j'adore
de
faire
tout.
Rire et j'adore, mais je voudrais de tout.
Ouais.
c'est trop difficile, c'est hyper injuste aussi ça. Ça te fait pas, t'as pas eu ça toi?
Eh ben écoute, en fait parfois je suis appelée sur des castings, ils savent même pas que j'ai un spectacle de stand-up, que j'ai un podcast, que j'ai sorti un livre qui s'appelle Les mecs que je veux ken. Là j'étais en callback ce matin sur un truc, une série policière pour le rôle d'une nana qui a perdu son gars et qui veut se suicider. Et donc tu vois un truc, un chouette rôle, hein, mais donc je me dis bon bah c'est cool, c'est qu'ils sont pas c'est qu'ils ont pas tapé mon nom sur Google et qu'ils sont pas tombés sur des vidéos de moi qui parle de chat, tu vois. Parce que je me dis ça casse quand même tout de suite un peu le rêve quoi.
Bah, c'est ça, mais ça devrait pas. Ils devraient avoir l'intelligence de dépasser, de se projeter, de dire là elle montre un angle, elle montre une partie de sa vie, mais c'est une comédienne. Peut faire un mec qui a perdu, enfin c'est tellement moi aussi, moi je trouve ça très limitant, mais
bah grave.
En France c'est toujours malheureusement beaucoup le cas. Mais il y a des gens intelligents, il y a des gens qui arrivent à voir autre chose en toi aussi, qui disent je vois bien voilà qu'elle peut être drôle, mais que ça veut, ça cache ça, une faille, une fragilité, une voilà une névrose, un truc, qui voit pas juste ah bah attends elle fait de la comédie, on va l'appeler pour faire la copine. Tu vois, t'as envie de dire ouais je peux le faire.
Oui, je sais le faire. Que maintenant les gens te reproposent. Moi ce qui m'est arrivé plus tôt, c'est que d'un coup, parce que j'ai parlé une fois de sexe, maintenant genre tout est lié au sexe,
voilà,
tu vois.
Par exemple, c'est binaire.
Oui, c'est bien sûr.
C'est binaire. Moi aussi, je parlais beaucoup à l'époque, je suis passionnée de bouffe et tout, donc je parlais beaucoup du corps, de l'apparence et tout. D'un coup, j'étais devenue un peu, bon, dès qu'il y avait un truc de bouffe, tu sais, la bonne vivante, machin, t'avais dit, oui, c'est une petite partie de moi, mais ça ne me définit pas complètement. Voilà, c'est toujours un peu ce côté noir ou blanc, quoi. Faut que ça change un peu, hein, mais c'est trop lent, quoi.
Et là, t'écris, t'es à nouveau en écriture de projet de série,
j'écris
scénario.
Toujours, mais je suis jamais encore, je suis pas encore passée au point final qui fait que ça part, entre guillemets, en financement, en diffusion.
Oui,
j'écris toujours.
C'est toujours les mêmes projets dont on avait parlé.
Peut-être que oui et peut-être que non. Je ne sais même pas desquels, parce que parfois, il y en a que j'arrête, que je reprends, que j'abandonne. Je ne sais même pas desquels j'ai pu te parler.
Quand je t'ai posé la question, attends, sur l'apparence, tu disais, oui, il y a une période où je passais de la grande salle. Est-ce que tu penses que c'est un rapport, le fait de ton spectacle, que tu sois arrivée vers la comédie, au fait que tu aies vécu... cette période dans ta vingtaine un peu plus... Est-ce qu'il faut...
J'en ai beaucoup parlé dans mon spectacle.
T'en parlais de ça?
C'était les années qui précédaient l'écriture de mon spectacle. Donc oui, je les ai intégrées dans certains passages du spectacle.
Ok, et c'était un chagrin amoureux?
Non, c'était un truc existentiel. Moi, j'étais... j'ai plutôt un corps, pour le coup, séfarade, un peu méditerranéen. Pour les gens, je laisse deux secondes pour que vous tapiez sur Google, Google Images, afin de vous voir, voir à quoi ressemble mon cul. Mais disons que j'ai plutôt des fesses et tout, donc vers l'âge de la puberté, donc moi qui ai une puberté tardive, donc vers 16 ans, tard par rapport aux jeunes filles d'aujourd'hui, hein, je pense qu'aujourd'hui c'est plus vers 12 ans, voilà. Donc moi c'était 16 ans, j'ai eu des formes qui se sont donc affirmées, mais qui restaient, pour le coup, quand je revois des photos, mais j'étais juste parfaite. C'est fou, hein, tu te dis, mais je me revois être malheureuse et me dire, mais c'est quoi ce corps, alors que je vois le truc là, ok, j'étais donc une bombe. C'est bizarre ce truc, tu sais, quand tu vois avec le regard qui change, tu te dis, mais comment j'ai pu me détester autant, enfin me faire être si peu indulgente envers moi. Et donc donc quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à vouloir lutter contre mon naturel méditerranéen. J'ai commencé à faire des régimes, etc. Et à l'époque, j'avais ma maman qui travaillait dans la mode et qui, pour le coup, elle avait une ligne très très fine et voilà, vouait aussi peut-être un culte un peu à la maigreur, etc. De part de son métier, de son amour pour l'esthétisme. Et par son biais, j'avais rencontré des gens qui travaillaient dans la mode et quelqu'un m'avait repéré pour faire des photos. Et j'avais fait quelques photos, sauf que il m'avait dit, tu sais, tu pourrais... J'avais dit, j'aimerais bien, moi, faire plus de photos, gagner de l'argent, c'est l'âge où tu veux. Tu vois, gagner ton indépendance. Il m'a dit, ouais, tu pourrais carrément rentrer dans une agence. Genre, si tu perds 4-5 kilos, tu vois, tu peux être dans le ratio des mannequins. Genre, 5, il m'avait dit, genre, je sais pas, 5 kilos. Et sauf que j'ai commencé à faire un régime à 16 ans, tu vois, tu perds du poids quand tu te mets bien en tête du truc et tout. Et j'ai commencé à faire un régime en lisant un magazine qui devait dire un régime du moment. Et j'ai tellement perdu vite. Que je me suis enflammée, genre, mais en fait, c'est trop facile de perdre du poids. Et du coup, c'est là que l'anorexie, en fait, mentale aussi prend le dessus, c'est que j'ai tellement pris plaisir, je pense, à contrôler mon corps, que j'ai perdu 30 kilos. Et je suis devenue, cadavérique, quoi.
Ah ouais?
Ouais, je suis allée jusqu'à 40 kilos pour 1,70. Donc
je savais pas, tu m'avais jamais raconté ça.
Je suis devenue très, très maigre. Et je me trouvais sublimissime, alors que, franchement, c'était Auschwitz, on va pas se leurrer. Je foutais les jetons. Et en fait, ma mère et ma famille, je pense, comme beaucoup de familles, mettent beaucoup de temps à tilter. T'as toujours un moment, une sorte de parenthèse où tu vois, tu sens que ça va pas, mais tu vois, moi, je le cachais bien, j'arrivais, tu vois, je prenais des laxatifs, enfin, je me faisais pas vomir, mais quand je mangeais, j'étais obligée de manger à table, je prenais des laxatifs pour me vider. Enfin, bref, je faisais des trucs qui me permettaient de cacher au maximum. Et puis un jour, ma mère, elle a vu que j'étais tellement maigre, elle a dit, écoute, là, Joséphine, si tu reprends pas du poids immédiatement, je t'emmène à l'hôpital et je t'interne. Okay. Et comme j'ai vu qu'elle plaisantait pas, ça m'a fait peur. Et en fait, je pense que j'attendais aussi. C'est une sorte un peu d'appel à l'aide aussi, parce que c'est une forme de mise en danger quand même littérale hein, de faire ça. Parce que je mangeais pas, en fait, clairement. Donc, c'est aussi une forme de... Il y a un souhait un peu... C'est un peu morbide aussi. Hein. Donc, c'est pas que parce que tu veux te trouver bonasse en faisant du 32, tu vois. C'est aussi parce que t'as un truc qui... Tu lances des appels. Et ma mère, en gros, elle a entendu mon appel d'une manière un peu brutale en disant, voilà, je te fais interner. Et j'ai dégoupillé. Enfin, c'est comme ça que je métaphorise ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, je mangeais pas. Littéralement, je mangeais, je sais pas, une pomme par jour ou une tomate par jour.
Wow.
Et ouais, parce qu'en fait, ton estomac après se rétrécit, donc il me fallait en fait quasi plus rien pour, pour voilà. Et je suis passée dans l'extrême en fait inverse. J'ai pas pu me dire, ok, très bien, moi je repars entrée plat dessert. Non, en fait, c'est impossible. T'as été tellement privée. J'ai été comme ça pendant presque deux ans. Puis qu'en fait, je suis passée dans l'extrême inverse et je suis passée dans une boulimie incontrôlable. Et comme mon corps s'était extrêmement privé. Il a stocké, tu sais, quand ton corps il pense que c'est la famine quand tu lui donnes plus à manger, donc le moindre truc que tu lui donnes ensuite, il le stocke parce qu'il se dit mon corps va peut-être de nouveau être en famine. C'est un truc archaïque. Peut-être la petite minute santé, la petite minute Michel Simès.
Ouais, c'est vrai.
Mais en fait, plein de gens le savent aujourd'hui, mais en fait, moi je le savais pas à l'époque, c'est que voilà, ton corps, quand tu maigris beaucoup, que tu lui donnes plus à manger, il se dit il y a une guerre, il y a une famine. Donc si un jour il a à manger à nouveau, il va se dire oula, ça je peux pas me permettre de le gaspiller, donc je vais bien le stocker fois 10 000. Et donc, en fait, le moindre truc que je me suis remis à manger lors de crise de boulimie, je les ai stockés puissance 1000.
Putain.
Tu vois ? Et donc, du coup, j'ai pris... Je me suis quasi doublée, dédoublée en quelques mois. C'était très violent aussi, psychologiquement. Et j'ai arrêté, d'ailleurs, d'être comédienne pendant les plusieurs années qui ont suivi. Parce que je ne m'acceptais plus en tant que grosse.
Hiring for your small business ? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Je suis passée de très maigre à, attention, pardon, je vais pas du tout insulter les gens, grosse c'est faux, puisque je suis allée jusqu'à 80 kilos pour 1m70, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est considéré comme ronde, c'est pas grosse, tu me voyais dans la rue, tu dis pas à la grosse,
non,
j'étais ronde, gironde, bien en chair, c'est des mots qu'on peut dire, moi je me voyais comme obèse, factuellement, j'étais même pas dans une, j'étais à peine dans le cas de la catégorie surpoids médicale, tu vois ce que je veux dire, mais visuellement, esthétiquement,
tu te plaisais
du 42-44, c'est considéré comme 44, c'est considéré comme ronde. Mais sauf que j'étais quand même 3 mois avant à 40 kilos, c'est-à-dire je faisais du 32. Je passais du 32 au 44 en 3 mois. Donc psychologiquement, salut, va accepter, va gérer, tout ça avec un métier d'image au milieu, hyper violent, et tout ça quand t'as 20 ans aussi.
Putain, et est-ce que tu te plaisais physiquement?
Quand j'étais maigre, je me trouvais sublimissime. Ouais. Et personne, je suis sortie avec, j'ai pécho zéro gars. Pendant les 2 ans où j'étais maigre. Personne ne m'a draguée pendant les 2 ans où j'étais maigre et je me trouvais sublime. Et quand je suis devenue grosse, j'ai ma poitrine, du coup ma puberté a repris parce qu'en fait j'avais pas eu le temps. Quand j'ai maigri, j'ai stoppé ma puberté en fait. Donc j'ai pas eu le temps de me rendre compte qu'en fait j'avais des seins, que j'avais, parce que j'avais pas encore les seins quand j'ai commencé à maigrir, alors que ma mère a des très gros seins et que je savais quelque part que j'étais plutôt amenée à avoir de la poitrine. Et d'un coup j'ai grossi de partout, mais aussi des seins. Et là, d'un coup, je suis devenue la reine de Saba. C'est-à-dire que je me faisais draguer, je chantais avec des mecs et tout, mais je me détestais. Donc c'était bizarre, tu vois. Et j'ai mis des années de yo-yo à relutter pour maigrir, pour me réaccepter, pour accepter de me montrer. Et c'est pour ça, dans ces années-là, que j'ai aussi écrit, composé les chansons et le texte de mon spectacle. Pendant des années de souffrance, en fait. Vraiment.
De souffrance. Ah ouais, des souffrance. TCA, quoi, comme on appelle ça aujourd'hui.
Ouais. Et ça reste très ancré.
Dans la tête.
Tout le temps.
Et ça t'a pas flippé, justement, la maternité, à ce moment-là? La prise... Non, t'as réussi à gérer?
Ça flippe toujours. Tant, on ne guérit pas de cette maladie, c'est prouvé. Tu ne guéris pas de l'anorexie ou de la boulimie. C'est toujours un contrôle permanent, c'est comme une sorte d'alarme dans ta tête qui s'en va jamais. Il faut juste apprendre à la dompter, comme plein de gens, je sais pas, sont bipolaires ou des maladies. T'apprends juste à vivre avec. T'es dépressif, bon, t'as des médicaments, mais tu sais que la maladie, elle est là. Et ben moi c'est pareil, moi la maladie de
l'apparence,
de la déformation, voilà, c'est ça, ouais. La nourriture pour moi ça reste toujours quelque chose. J'aime énormément manger la gourmandise, je suis l'emblème de la gourmandise, les gens qui partagent ma vie le savent, etc. Et je le défends. Et pour autant, c'est toujours fruit d'un contrôle. Ouais. Si je suis gourmande, c'est qu'ensuite je sais que je vais pouvoir me rattraper en faisant du sport ou en mangeant moins les autres jours. Je ne peux pas renoncer à ma gourmandise aujourd'hui. Et pour moi, c'est l'équivalent. C'est comme si je m'interdisais de vivre. Donc c'est impossible pour moi. Ouais. Mais c'est toujours parce que je sais que je ne suis pas sur une pente glissante où je vais pouvoir, en fait, j'ai toujours trop peur de repartir dans un extrême, dans un excès. Ouais. Donc, je vais me rattraper après pour me dire, ça fait un équilibre, c'est mon équilibre.
Ouais.
Mais c'est toujours omniprésent.
Et tu fais plus de crise de boulimie aujourd'hui ?
Je suis plus dans des extrêmes. Pour moi, celles qui me font penser à quand j'ai vraiment lâché la première fois après quand j'étais anorexique, c'était très violent. Ça veut dire que c'était au point tellement... Non, parce que je n'ai jamais vomi, je n'ai jamais rendu malade... pour ne pas stocker, parce que je suis un peu hématophobe, en fait, c'est la peur du vomi, donc ça m'a toujours gardé de ça. Donc non, mais par contre, je mangeais au point de plus pouvoir respirer. Mon diaphragme, en fait, remontait tellement que j'avais le mal de ventre, tu sais, quand tu es tellement pleine, que justement, tu devrais, en fait, vomir, mais je vomissais pas. Et donc là, je ne suis plus dans ces niveaux-là. Maintenant, si je m'achète des trucs, je vais me dire, je vais me resservir, je vais reprendre des trucs, je vais manger, mais toujours dans un truc quand même de jouissance, qui reste dans un truc où je ne vais pas me rendre... physiquement malade, non.
Ouais.
Non. Ce qui est déjà pour moi une preuve d'apaisement certain.
Ouais, bien sûr. Et la chanson, la musique, ça faisait partie de ta vie dans la vingtaine et aujourd'hui...
Non, bah justement, c'est parce que quand j'ai arrêté d'être comédienne, c'est là que j'ai fait de la musique. Il fallait que je fasse autre chose voilà, c'est là que je me suis mise avec...
dans cet ordre-là.
Ouais, dans cet ordre-là, je me suis mise à la musique après.
D'accord.
À 20 ans, quand je suis devenue d'un coup très grosse. J'ai pris une guitare, je me suis dit, allez, prends ta guitare pour cacher ton gros bide. Ouais, non. Et du coup, c'était parti comme ça. J'ai fait de la musique. Et ensuite, j'ai rejoint les deux, musique et comédie, à travers mon spectacle.
Et oui, parce qu'on en avait discuté, je ne sais plus, on parlait des mecs avec qui. Et toi, tu as été avec pas mal de musiciens, quoi.
Ouais, des musiciens, pas de comédiens, moi. Enfin, si très peu, mais des one night stand. Comédien, jamais été en relation, en couple avec un comédien. Oh mon Dieu, Dieu m'en a préservé.
Ouais, t'as beaucoup de chance.
Quelle plaie de l'humanité.
Ah ouais, l'enfer.
C'est l'enfer.
Bah, j'ai fait que
ça. Je peux pas, mais ça, non. Moi, musicien, beaucoup, c'est plus cool.
Ah ouais.
Il y a de l'ego quand même, mais.
Il y a de la drogue aussi, non ?
Il y a tout, mais c'est un pas de côté, si tu veux, je sais pas comment expliquer.
Ouais.
C'est
pas la réalité.
Je sais pas, la façon dont ils sont plus chill, ils sont plus détendus, quoi.
Oui, ils sont moins sur eux.
Ouais,
ouais.
Quand même. Tu continues avec des comédiens encore ?
Non. Enfin, moi, je dis ça, je dis n'importe
en
quoi.
En couple, il y a une nuance entre humoriste et comédien, d'après toi ? Parce que moi, j'ai jamais été avec un humoriste non plus, donc...
Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes. J'ai l'impression quand même que... À la fois, les humoristes peuvent être vraiment plus dépressifs que les comédiens.
Ouais.
C'est-à-dire que tu peux avoir un côté quand même de comédien joyeux.
Ouais,
tu vois
ce que tu veux dire.
Et en même temps, il peut y avoir quand même des humoristes un peu plus...
Ouais.
Plus intelligents quand même parce qu'ils écrivent, tu vois, en fait.
Ouais,
alors que les comédiens, ça peut être juste des grosses putes, quoi. qui passent leur journée à séduire, quoi.
Allez, et big up à tous les comédiens qui nous écoutent.
À tous mes ex. Non, mais après, ils en rigolent et ils le savent un peu eux-mêmes. Ce qui est bien, c'est... Après, finalement, je trouve qu'il y a plein de comédiens qui en vieillissant vieillissent bien aussi.
Dans leur mentalité.
Ouais, qui ont de l'autodérision, qui deviennent modestes. En fait, je trouve que les
comédiens...
Oui. Le pire, c'est les comédiens, en fait, dans leur vingtaine.
Oui, c'est ça, l'équivalent de la jeune première qui s'est fait repérer un arrêt de bus et qui était la première rôle.
C'est ça, quoi. Après, en vrai, passé 30 ans, s'ils font leur life, s'ils ont leur truc, c'est...
Un gosse au passage, ça remet tout le monde un peu dans
Ouais. Ça devient du Montreuil-Lois, quoi. En fait, ça devient... C'est plus comédien, ça devient juste de l'intermittent, quoi. Marché bio, bagnolet, série OCS, tu vois.
OCS
Ouais, tu sais, c'est... Tu vois, celui qui habite à bagnolet...
T'as très bien résumé. Là, je sais que tu viens de faire un portrait d'une personne que je vois. Elle est dans cette pièce, en fait. Elle est tellement réelle qu'elle est parmi nous, cette personne. Elle existe. Elle existe vraiment. Il lui manque un prénom nonobstant.
Il lui manque un prénom. J'en ai un pour elle. Allez, Romain. Mais c'est tellement ça, Romain. Pour Romainville. Parce qu'évidemment, que l'intermittent n'habite plus à Bagnolet. Il est à Romainville.
Tout le monde a reculé d'un cran.
Tout le monde a reculé d'un cran avec les confinements, ouais.
Bien sûr.
C'est marrant à ta fête. Attends, c'était la part de ton ami.
De mon oncle.
Ah, incroyable.
Ouais, un love trop beau, ouais.
Et il y avait ce photographe magnifique qui était déjà là au
pique-nique. Qui, mon Dieu ?
Tu vois pas qui c'est ?
Ah non, Thomas ! C'est pas un ami, en fait. C'est toujours, en fait, lui, c'est un des meilleurs amis de Julien Ward, qui est un des réalisateurs avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, avec qui je venais de terminer un tournage pour Amazon, une série pour Amazon Prime.
Cool.
Très cool, ouais. Donc, on avait fait un film ensemble qui s'appelle La Grande Classe sur Netflix.
Oui.
Et en fait, on venait de terminer le tournage en Charente de cette série. Et comme ce fameux Thomas est était, est un très très bon ami de Julien, le réalisateur. Il avait aussi fait un petit rôle dans la série et je l'avais croisé sur le tournage une fois, deux fois. Et donc, le jour de mon anniversaire, il me dit que je peux venir avec, avec Thomas. Je dis bien, à chaque fois, c'est lui qui le ramène en plus. Okay. C'est pas moi qui. D'accord. Moi, finalement, je le connais pas littéralement directement.
On parle du même, le photographe beau gosse, quoi.
Un grand.
Ouais, un grand.
Cheveux un peu poivre et sel.
Ouais,
mais c'est pas un ami, lui.
Ouais. Et c'est marrant, les photographes, je peux pas.
Bah écoute, je sais pas, jamais employé comme
toi photo. Non plus, tu vois ce que je veux dire, mais c'est terrible, j'ai l'impression d'avoir un racisme, comme certaines personnes peuvent avoir un racisme
pour les comédiens.
Et ben bah, moi c'est pour les c'est photographes. Marrant, je suis en mode ouais bah c'est bon, il y a iPhone. Enfin tu vois.
Ah d'accord, c'est pas un vrai métier.
Je pense.
Ah d'accord.
Sauf les photographes de guerre, sauf les reporters.
OK.
Mais sinon
tu vas pas te faire que des amis en disant ça. Hein.
Je sais, mais oh, je le dis depuis longtemps, c'est ma marque. Il y a deux trucs que je dis contre les hommes qui me sont reprochés du fait de leur violence. C'est je suis pas attirée sexuellement par les mecs plus petits que moi de
pareil
taille. J'ai été harcelée en ligne.
C'est vrai. Ah merde, je vais me griller en le disant alors.
Bah fais gaffe parce que tu peux avoir des petits qui te font un gros strike bien vénère sur tes réseaux sociaux.
Alors, tu peux soit couper, décider de le couper, soit décider de m'envoyer à l'abattoir en regardant. Je vais te soudoyer pour que tu l'enlèves. Moi j'aime que les grands, c'est horrible.
Ah mais oui.
Que, en plus je suis grande et toi aussi.
Ouais,
on
bah
est
pareil,
pour des filles,
oui.
On est plutôt grande.
Écoute, je te propose qu'on assume. Enfin, t'imagines le nombre de critères, le nombre de critères que les mecs ont et le nombre de, tu vois, de trucs de torture qu'on s'est affligé.
Ça c'est sûr.
Et nous, le seul petit critère qu'on a, alors, bah, c'est le fait qu'on soit attiré physiquement.
Moi, j'ai du mal avec les mecs petits.
Moi non plus, ça m'attire pas. Ça peut m'en faire de très bons amis, mais j'ai vraiment, c'est très rare. Sauf si
beaucoup d'alcool et une désespérance.
Ou alors, sauf si le mec est, j'allais dire Pierre Ninet. À ce moment-là, c'est pas grave, Pierre Ninet.
Il est pas très grand, hein, c'est vrai.
Ah, non,
oui, mais au moins, c'est pas. Moi, je te parle plus petit que moi. Je suis 1m69. Voilà, c'est quelqu'un de petit.
Oui, oui, non, moi non plus, j'arrive pas à sexuellement sécréter des phéromones. Quoi.
Et de la cyprine.
Il y a ça, et en fonction des métiers, j'avoue, c'est vrai qu'il y a des métiers qui m'excitent moins. Et photographe, je sais pas pourquoi, alors que journaliste à fond.
Ok, intéressant, tes métiers excitants.
Mais tu perds pas de vue. À ton anniv, j'ai discuté avec qui? C'était avec un agent immobilier que j'ai discuté avec un moment.
Fille, femme?
Non, un mec. Bah. Et t'es arrivé, t'as fait ta mère juive, t'as fait ah, ben là, vous me rencontrez.
Mais, oh putain, avec l'accent, moi je vais être bourrée justement 2 heures avant que vous arriviez tous. Mais par contre, attends, mais je vois pas du tout qui est. Fille, c'est plus qui est l'invité à son anniv.
Un agent immobilier à Paris, à Deauville. Au départ, je croyais qu'il était gay. Et tu m'as dit, mais non, pas du tout, il est hétéro. Mais très gentil. Hein.
Dingue, je sais plus du tout qui c'est. Je sais plus qui l'a invité à mon anniv.
Très sympa.
Je vais retrouver. Et finalement, ta personne t'a plus dragué que ça.
Non, mais attends, tu sais sur qui j'avais flashé à ton anniv? Sur le pote de ton frère qui doit avoir 18 ans.
Ouais, bah mon frère, il a 22 ans. Bah, t'es comme, il est beau, mon frère, déjà.
Ton frère est magnifique.
Bah oui.
C'est une bombe sexuelle.
Oui, puis il est très grand, il fait 2 mètres.
Et puis il est trop, presque.
Trop grand.
Trop beau.
Oui, trop beau. Mais
il est trop beau.
Il est très beau.
C'est un
mannequin, quoi.
Il est mannequin. C'est un portrait.
C'est pas son métier, il travaille dans le design de mode, mais il est mannequin.
Il est mannequin, c'est vraiment une bombe. Mais son petit pote, là, en mode Timothée Chalamet.
Tout à fait.
J'ai eu un petit élan pédophile.
Ouais, 18, 19 ans. Non, mais il doit avoir le même âge, il était dans la même école, je crois qu'il doit avoir 22 ans.
Ouais, 22 ans, mais c'est vraiment bébé, mais j'avoue.
Et ça va, 22, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas non plus haut, t'es plus jeune que moi en plus, toi.
Oui, non, mais moi, 22, j'y vais.
Bah ouais, faut y aller.
Ouais, mais ils sont partis de la soirée.
Oui, ils sont partis. Ils sont allés, je crois, ailleurs. Encore ailleurs. Mais ok, je note.
Tu notes, bah si j'avais
le lien.
Non, mais il faut un jour que je grandisse, tu vois.
Mais t'es toujours un peu active en recherche de couple. Tu m'as posé la question tout à l'heure de me dire est-ce que tu voulais te poser à l'époque. Est-ce que toi, t'es dans cette démarche?
Mais oui, parce que moi, je veux un bébé.
Là, t'es passé en mode bébé. Tu veux le bébé. Mais moi, tu vois, c'est marrant, je me suis jamais dit je veux un bébé. Je me suis toujours dit je ferai un. C'est cucu de dire ça comme ça. Je me suis toujours dit, si je fais un enfant, ce sera l'enfant de l'amour, et je ferai un enfant, ce sera le fruit de mon amour pour un homme que je rencontrerai.
Ouais,
je ne serais jamais,
j'ai jamais
pris le chemin dans l'autre sens.
Ah ouais, moi c'est plus ça.
Voilà, mais moi ça n'a jamais été. J'en serais jamais arrivée à ce que tu dis.
Que
en fait, je pense j'aurais pas fait d'enfant
à 27 ans.
Mais je sais pas. Je crois que j'aurais renoncé à mon désir d'enfant.
Non, bah bientôt 33 ans le 9 mai.
Oh, mais c'est rien encore, chérie. T'es un bébé.
Merci,
pour ça,
ça
pour ces questionnements-là, attention. Moi, à 33 ans, j'étais en couple depuis 6 ans, donc j'entends. Voilà.
Mais ma petite sœur est enceinte, donc ça fout un petit coup.
Je comprends.
Je comprends. Donc, résultat, il y a des trucs.
Et donc, ça réveille aussi un truc.
Ouais, ça réveille. Et puis en plus, je t'avoue que les mecs, je trouve ça très rigolo et tout. Je trouve ça très mignon, très attirant. Mais en vrai, c'est. En fait, j'ai envie que le moteur de ma vie, ce soit le taf.
Bien sûr,
et,
mais ça l'est.
Et un bébé. Mais
mais c'est un moteur, mais c'est aussi un gros frein. Bah, c'est les deux. Attention, frein, ça n'empêche de rien faire. Hein.
Ouais.
Tu peux tout faire avec un enfant et t'arrives à. Et je pense que t'as dû recevoir même des filles brillantes comme Audrey Vernon, des choses comme ça. Des filles comme ça qui ont des enfants et qui gèrent, mais de main de maître, et elles ne s'empêchent de rien. Mais c'est un prix de fatigue, de compromission permanente et fatigante. C'est juste ça. Mais tu feras pas moins de choses, mais ça peut être un moteur comme aussi un gros caillou dans la chaussure. Ça, c'est une réalité quand même. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais...
Mais oui, donc non, je continue de, okay. je continue de chercher.
Tu cherches finalement le père de tes enfants aujourd'hui.
Ouais, ouais, clairement, ouais.
Ok, le géniteur presque.
En fait, j'étais persuadée que ça aurait lieu à la sortie de mon livre.
Ah bon?
Ouais.
Bah attends, il est sorti il y a pas moins d'un an.
Il est sorti
là,
en janvier, mais
bah, en avril, on dirait moi. Avec des trucs de tout dramatisé au bout de 2 semaines. Mais oui, mais je m'étais laissé 2 semaines et ça fait 2 mois. C'est genre, ça va, c'est rien.
J'étais persuadée que, en fait...
Faut dézoomer, là.
Ouais, mais je croyais que c'était, tu sais, qu'avec le livre, genre, je faisais, tu sais, comme dans Starmania, bye, bye.
Ouais,
enfin, genre, tu vois que c'était un peu le truc où ensuite...
Qui marquait la fin d'une ère.
La fin de l'ère de la loose et du dating. Nouvelle ère. Et maintenant que j'allais, tu vois...
D'accord, sauf que pour moi, un livre sorti en janvier et on est en début mai, c'est pas suffisant. Ça peut vouloir dire ça encore, sauf que si ça arrive en septembre, on pourrait quand même dire que c'était ça.
Ouais,
tu vois
ouais.
ce que je veux dire?
Ouais, ouais, ouais.
Toi, t'es trop près encore. Faut que tu vois, que
ouais,
tu
t'as raison. Ouais,
si
ouais.
je peux te permettre de te faire relativiser, parce que je suis très forte pour dramatiser moi, mais faire relativiser les autres. C'est mon grand talent.
C'est vrai.
Tout ce que moi je m'inflige comme angoisse, j'arrive à ne pas le faire pour les autres. C'est cool. Tant mieux.
C'est cool.
J'épargne les autres. Après, je suis réaliste quand même. Hein. Je peux te dire qu'il y a des trucs quand parfois tu me dis, si tu me dis, ouais, je suis en finale pour un truc, mais la chaîne n'a pas. Je vais dire, ouais, bon, bah, calme-toi, espère pas trop, parce que la chaîne, si
et
ça.
Et attends, c'est quoi le la série que t'as fait pour Amazon? C'est génial.
Ah, ça, c'est une série qui s'appelle Darknet sur mer.
Ok.
Une comédie d'action. Okay. Un peu à la Fargo, tu vois, un
trop
peu
bien.
Dans un petit village paumé où il y a une sorte de. Il y a des méchants, des vrais méchants qui viennent dans un petit village. Et c'était très cool à faire. Et de retravailler avec Céréales déjà, qui j'avais fait le film La Grande Classe, et aussi mes partenaires et le lieu, mais j'ai adoré.
C'était qui les comédiens avec toi?
C'était Artus.
Ouais.
Que tu l'as jamais reçu, hein?
Non,
Artus. Il y avait aussi Théo Fernandez, très cool.
Okay.
Qui c'est Théo Fernandez? C'est un mec qui jouait dans Irresponsable, dans Stalk.
Ok.
Qui joue dans Les Tuches aussi, il avait fait l'enfant le plus jeune des Tuches.
D'accord,
un brin très froluqué, mais très drôle. Et super bon comédien. Et un autre comédien qui s'appelle Léon Plazol, qui était aussi à mon anniversaire pour le coup. Que t'as vu un peu rondouillard, très drôle. Et après, il y avait aussi des rôles secondaires comme Vincent Desagna, Ariel Mallet. Après, des gens moins identifiés.
Comédie
Moins identifiés tout court, mais des super comédiens. Emile Petlovici. Et voilà, moi, je suis le rôle principal féminin.
Waouh.
Bouillard, qu'est-ce qu'il y a? Et c'était trop cool à faire. J'avais beaucoup de cascades. J'ai fait une flic, donc j'ai fait de l'armement. J'ai fait des préparations de chorégraphie de baston. C'était trop cool. Très
incroyable.
Très cool à faire.
Génial.
Je suis prête pour faire le Fast and Furious 9. Je lance une annonce.
Oh, c'est trop bien. Et quand est-ce que ça sort? Quand est-ce que
ça sort début septembre.
Trop bien, ouais. C'est rapide.
C'est ça. Oui, c'est plutôt rapide. Il livre le truc en juillet, ça sort en septembre.
Ah, c'est
donc
génial.
Donc ça va être très cool, Darknet sur mer. Et après, j'ai fait d'autres choses depuis. Enfin, je tente deux autres trucs là que je commence.
Ok.
Et c'est cool.
Et la série que t'avais fait, qui était l'adaptation du film avec Amy Schumer.
Ah, ça, c'était un film, l'adaptation.
Ok.
Sur TF1, c'est passé l'été dernier.
C'est
ça.
Passé l'été dernier.
Fin
sur
août dernier.
Ah, j'ai raté.
Ah oui,
réalisé par Anne de Pétrini, c'est ça.
Oui. Ça avait super marché.
Okay.
Et tu vois, par exemple, pour répondre à un truc factuel, parce que j'ai l'impression qu'il y a un sous-thème comme dans ce podcast, c'est comment vulgariser les angoisses et les problématiques des comédiens. En gros, j'étais l'héroïne de ce film, d'accord? On voit que moi, 99% du temps d'écran de ce film, c'est moi.
Ouais.
Donc, non, mais littéralement, si un jour tu le vois, tu verras, c'est flippant, on ne voit que moi. Et du coup, tu peux te dire prime time, TF1, rôle au-delà du principal. Quelqu'un, on va dire, qui soit fait pas partie de ce métier, soit qui est moins angoissé que moi, peut te dire, ouais, bon, bah, après ça, quand même, on va te proposer vraiment d'autres trucs cool.
Ouais.
Non, pas du tout, ça ne vaut pour rien. Mon agent te dira, oui, mais maintenant, Joséphine, quand on pense à toi, c'est pour des rôles importants, parce qu'on a vu que tu avais un rôle important, donc on va dire que les gens te voient plus avec en tête l'idée de te confier des rôles importants auxquels avant j'aurais pas pu prétendre. Ça c'est vrai, mais pour autant on me les propose pas en direct. Quand ça m'arrive, c'est pour des castings dans lesquels je suis face à plein d'autres gens et ça ne m'a pas fait arriver dans un stade où j'imaginais qu'on me propose en direct des super rôles principaux. Non. Et tu vois, c'est pour ça qu'il faut jamais s'attendre et faire des stratégies ou te dire tiens, ça vaudra pour ça, ça va dire que non. Vraiment, je peux pas te dire autre chose.
Mais tu viens d'avoir un rôle principal dans une série Amazon.
Oui, mais parce que pourquoi? Pas pour ça. Parce que j'ai déjà fait un rôle secondaire dans le film des mêmes réalisateurs de 3 ans avant.
Oui, mais tu crois pas que si la chaîne et les producteurs te...
C'est... Oui, je vois ce que tu veux dire.
Ce que je veux dire,
que le mec d'Amazon a dit j'aime
même
beaucoup cette fille parce qu'il avait vu que j'avais fait des trucs entre-temps.
C'est
sûr que c'est un consensus.
C'est quand même lié.
Forcément, c'est lié.
C'est
raison.
Un tout, ça fait une boule de neige.
Je vois ce que tu veux dire. Ils auraient peut-être pas pu valider leur envie auprès de la chaîne si j'avais pas fait ce que j'avais fait à côté.
Complètement.
Tiens, t'as raison, je me suis pas fait la réflexion et je me la fais en parlant. Mais c'est toujours raison.
Mais oui.
Je dis toujours, mais c'est parce que j'ai déjà travaillé avec eux et qu'ils me connaissent et que justement ils m'ont proposé.
Ah, faut mettre
oui,
plusieurs personnes
que,
d'accord.
Voilà, c'est ça. Ils bah auraient ouais. dit, ouais, on aime bien ta copine, mais bah en fait, oui. on va mettre
bah, c'est ça.
Cette fille plus connue parce que nanana. Et ils auraient certainement dû dire, ok, ouais. pas de souci, parce que souvent t'es obligé de te plier.
Est-ce que toi, t'as toujours une actrice connue à laquelle on te compare
pour le jeu ou pour le physique?
Les deux.
Parce que pour le physique, c'est Jennifer Lawrence. Elle est beaucoup trop vite pour que ce soit pas avec ça. Je te le dis, fallait attendre une seconde.
Jennifer Lawrence qui est blonde, tu la sens pas du tout.
Excuse-moi, je viens de me remettre brune, mais pendant 4 ans j'étais blonde. Alors tu tapes Joséphine Drey blonde et là tu verras que Jennifer Lawrence est
tu
en moi.
Je te trouve si, très belle. Pommettes,
regarde, et oublie le brun là.
Ah oui,
j'ai ben... les yeux comme ça avec les hauts.
Ok.
Non, moi, alors, tout ce qui est pommette, Jennifer Lawrence.
Ok.
Non, mais tu voulais savoir quoi, si moi, on compare en termes de jeu.
T'as un petit côté Elsa Silberstein, non?
Oh,
t'as
jamais pas du comparé tout. Non, par contre, depuis que je suis toute petite, on me dit que je ressemble à Valérie Le Mercier. Mais plus dans la façon de s'exprimer.
Ah ouais, d'accord.
Oui.
Et en jeu, alors, en tant que comédienne, on te dit jamais.
En jeu, mais c'est ça, Valérie Le Mercier.
Et c'est qui la comédienne, que tu peux dire, connue, qui était. Avec qui t'étais en lice pour le rôle
oh
dans Planqueur.
Ah non, je peux pas, j'ai pas, ah, j'ai pas envie de le dire. C'est pas que je sais pas si je peux en fait.
Ah.
C'est pas que j'ai pas le droit. On m'a jamais dit t'as pas le droit de le dire. C'est juste que je me dis est-ce que c'est pas élégant même par rapport à
non,
elle. Peut-être même
sûr.
Qu'elle l'a jamais su elle.
Ah oui d'accord. Tu non mais bien sûr. Est-ce que t'as une comédienne connue à laquelle on t'a souvent comparé pour qui était la rêve pour le personnage et le personnage t'est revenu?
Non, c'est plutôt dans l'autre sens. Là, je pense que c'est jamais le personnage, je m'ai jamais revenu à moi, alors qu'il y avait une référence
non, mais par
à l'autre.
Par exemple, tu vois, moi, ça m'arrive, genre, ils ont en tête Anaïs de
ouais,
Moustier.
Ouais, parce que tu te ressembles physiquement.
Voilà, ouais. Et
c'est ensuite... pour ça aussi, c'est parce que c'est physique avant tout, pas du tout ouais. parce que dans votre façon de jouer ou de
oui,
s'exprimer.
Oui, ah bah non, bien sûr.
Ouais. Non, moi, physiquement, on m'a jamais. Non, par contre, il y a toujours ce fameux, mais pareil, que je trouve pas du tout créatif, c'est le côté. Pour ce personnage, c'est un personnage rigolo, alors on imaginait une humoriste, alors ça peut être soit Bérangère Krief, soit Nora Hamzaoui, soit Joséphine Rice, soit mon cul, t'as envie de dire ouais, ok, mais aucun raps en fait avec ces personnes parce qu'on dégage pas pareil, juste parce que c'était le rôle de la copine marrante.
Ouais.
Donc, oui, je vais te citer les humoristes du moment. Oui, on va mettre dans cette case là parce qu'on est toutes logées à la même enseigne. Il faut une jeune fille pas trop moche, pas trop belle pour un rôle de copine, tu vois.
Ouais.
Ça, c'est malheureux, mais c'est la vérité. Alison Wheeler, voilà beaucoup.
Ah, ouais, si, ouais, ouais,
parce
je
qu'elle
vois.
Est
oui, vous êtes dans la même
pas moche,
case.
Pas jolie, tu vois ce côté. Elle est un peu norme, la fine girl next door, mais drôle. Tu vois, voilà, je dirais pas, si je devais en dire
jolie,
une, ce serait elle.
Elle est très jolie, mais c'est parce que t'as l'impression qu'au cinéma.
Parce qu'elle a une gueule, elle a un physique, tu vois.
En fait,
elle est pas lambda.
Ouais, si t'es pas. T'as l'impression qu'ils ont deux cases. Ils ont Anna Gérard. Enfin,
voilà,
ou t'es la bombe absolue.
Exactement.
Ou t'es la girl next door.
Exactement.
Quoi.
Et ben voilà, moi je suis dans la catégorie girl next door.
Oui, moi
et
aussi.
Et Alison, par exemple, elle a vraiment une gueule, etc. Elle a du chien. Elle a un. Tu vois. Et ben du coup, ça, je suis dans cette catégorie. Donc allez, je m'arrête sur elle. Je dirais Alison Wheeler.
Oui, mais je vois très bien en quoi vous pouvez en effet être comparé ou être vu ensemble.
Moi, je suis un peu dans ce truc. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'aime et j'espère que j'y arriverai de plus en plus. Tu vois, par exemple, dans la série Amazon, je ne fais pas. Mon rôle n'est pas comique.
Ouais, c'est bien.
C'est autour de moi, tu vois. Arthus, c'est drôle. Et c'est une comédie, mais c'est aussi une comédie d'action. Et moi, je suis une flic. Et je fais toute la partie pas comédie. Et ben, ça, c'était trop cool.
Ouais.
Parce que ça me permet de montrer clairement une autre couleur.
Ouais.
Et pas d'être le guignol de service. Et pour autant. Là, dans les trois trucs, je fais trois trucs en même temps. Je fais un petit truc dans le film de Michael Youn, très comédie.
Ouais.
J'assume à fond le rôle. C'était en grosse comédie et tout, la meuf de Vincent Desagna, machin.
Ouais.
Et à côté de ça, je fais deux autres trucs. Je fais une psy dans un établissement pour enfants, pour lycéens handicapés.
Trop
là,
bien.
C'est drama, drama.
Ouais.
Je suis trop fière et trop contente qu'on me l'ait proposé en direct en plus.
Pour un du
pour une série, pour
TF1,
une série.
Génial.
Ouais. Mais tu vois, je me dis, c'est pas du tout sur le papier. Je vois même pas comment on a pu penser à moi.
Puis de proposer quoi, pas
directement.
Casting, ah, ça fait plaisir.
Et quand j'ai pu inspirer ça aux gens, hyper touchée.
Ouais.
Et l'autre truc, c'est où je fais une flic aussi.
Ok.
Gendarme. Mais là, pour faire un peu de comédie quand même, un peu de comédie, mais pas.
Est-ce que c'est pas le fantasme de tout feuge de jouer un gendarme?
Tu penses?
Je n'ai pas de gendarme.
Non, c'est de
feuge.
Médecin.
Mais non, parce que tout...
ah,
non,
parce
mais je pense
pas.
Mais il y en a pas. Tu sais, t'as que des feuges, médecins, astronautes.
Il y a pas d'astronautes.
Non. Mais encore moins gendarme. T'as pas, tu vois? C'est rare que les juifs deviennent gendarmes.
C'est une bonne t'as des réflexions, toi.
Non, tu vois ce que je veux dire?
Attends, viens, on trouve le métier, l'anti-métier feuge possible.
Boulanger, il y en a peu.
Très peu.
Très peu de boulangers.
Ou bien les traiteurs cachers.
Ou alors traiteurs cachers.
Non, mais boulanger de quartier, ouais.
Boulanger, c'est vraiment un métier de
gars. Ah ouais,
de
ouf.
J'adore.
ce que ça pourrait être un jeu. Je trouve le métier oui. le plus goy.
Ouais, alors qu'il y a des métiers juste avocat, médecin, dentiste, ophtalmo,
fourreur, tailleur, tout ce qui est dans le chantier,
violeur, producteur.
Producteur slash violeur. Voilà, réal, tous les métiers. Mais attends, mais il y a quoi comme métier goy de ouf? Mais c'est vrai que c'est
métier goy, boulanger, pâtissier,
mais même aussi si j'ai envie de dire dans la fonction publique un peu le fonctionnaire de base de mairie de base.
Postier. Oui,
tu vois, tout ce côté fonctionnaire-là.
Oui, tout ce qui est fonction publique.
Hormis professeur d'université.
Ouais.
Tous les autres, peu de fudge.
Peu de fudge en prof de lycée. Peu de fudge instituteur.
Moi, la directrice de mon école primaire, c'était Madame Assouline, quand même.
Ah, quand même.
Non, j'irais plus sur un truc comme je dis fonctionnaire, mais tu sais, comme voilà.
Non,
genre,
je sais pas,
Catherine de la mairie, tu sais, quand t'attends pour faire ton passeport.
Oui, il n'y a jamais de
guichet. Ils sont pas au guichet.
Non, ils sont pas.
Ils sont pas devant. Ils sont peut-être derrière ou dans d'autres bureaux, mais ils sont pas devant. Avec
mais gendarme.
Ouais,
gendarme.
On va rester sur gendarme.
On restera sur gendarme. Je suis désolée. C'est...
Et bah, tu vois, je vais réhabiliter.
Gendarme. Parce que je pense que t'as des juifs à la mairie, mais plus en bénévolat, au quartier, tu vois. Genre, tu vois, typiquement.
Ouais.
Non,
je te dis pas à l'accueil.
Non, pas
à l'accueil. Tu donnes ton petit papier volant avec
le
numéro.
Non, voilà. Non. Bah, j'allais faire une remarque antisémite, mais ça rapporte pas assez d'argent. Non.
Donc voilà.
Les juifs qui gagnent pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des téléphones.
Non, ils sont artistes.
Artistes
à faire des expos,
artistes,
des happenings, quoi.
Ou
sculpteurs, tu vois.
Ou traiteurs, en effet.
Ça gagne, un traiteur. Hein.
Ah ouais, bien sûr.
Bah, si t'as vu le prix des trucs cachers, c'est 3 fois plus cher qu'un truc normal.
Et c'est dégueulasse.
Dégueu et 3 fois plus cher. Et pas fin. C'est comme si tout était en raté.
Ouais.
Quand tu vois, tu as un petit four,
tout est raté.
Les
bonbons sont ratés.
En grossier, coupé mal.
Oui,
tu vois.
Moche. Ouais.
Terrible.
Le vin est trop sucré.
Les gens qui sont jamais allés à une barbe ou un mariage juif, ils doivent se dire, mais de quoi elle parle quand même?
Ah bah si, non, mais c'est dégueulasse. Bah faut leur dire, il n'y a rien à.
Sauf
aller chez
Finkelstein. Et faites-vous inviter.
Finkelstein, c'est bon.
Ouais, les gâteaux
le gâteau,
sont bons.
Le gâteau, fromage et...
Moi, je te parle du traiteur de base que t'as pas voulu. Ou t'as pas voulu payer les deux bras, les deux jambes.
Ça coûte cher et
voilà.
C'est dégueulasse.
Voilà.
Ouais.
C'est dommage, ça. Il y a un truc à faire encore. Pour le prix, hein, parce que je veux dire, si tu payes très très cher, t'en as des très bons.
Ah ouais?
Mais tu saignes, tu vends ton enfant.
Quoi,
tu vends au moins deux organes de ton enfant.
Faut que je passe au petit questionnaire de Proust.
Oh là là, mon Dieu, questionnaire. J'ai peur.
La qualité que tu préfères chez un homme?
L'humour.
La qualité que tu préfères chez une femme?
Est-ce que tu remarques que j'ai l'impression d'être comme dans une question pour un champion, que si j'ai un bip, un minuteur, je réponds comme s'il y avait vraiment un timer alors que j'ai tout le temps en fait. Hein,
comme
on est d'accord.
Bonne élève.
Pardon. La qualité que je préfère chez
une femme?
L'humour.
Ouais. Le principal trait de ton caractère?
L'humour. Non, en vrai, c'est l'impatience, mais je dirais, c'est vraiment ça, c'est l'impatience et l'obsession, l'obsessionnel.
Ouais.
Ça va avec l'impatience souvent.
Ouais. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Bah évidemment, l'humour, ça c'est sûr. Mais ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est leur sens de la fête.
Ton principal défaut?
L'impatience.
Ton occupation préférée?
Manger des glaces.
Ah ouais. Ton idée du bonheur?
Manger des glaces autant que je veux à Disneyland, parce que c'est mon lieu de référence ultime dans la vie.
Ouais,
si possible sur un petit scooter électrique, parce que j'aime bien être en scooter aussi et
à avoir Disneyland.
Avoir un scooter à Disneyland avec un bâtonnet de glace à la main, c'est mon idée du bonheur.
C'est une affiche de film. En tout cas,
j'avoue.
Quel serait ton plus grand malheur?
Perdre mon papa.
Si tu n'étais pas toi, qui voudrais-tu être?
Ah, c'est une bonne question ça. Je serais curieuse d'être mon fils pour voir ce qu'il pense.
Oh ouais, tiens. Où aimerais-tu vivre?
À Tel Aviv. Mais je pourrais vivre à Tel Aviv seulement genre une partie de l'année et pouvoir revenir quand je veux quand même. Pas être genre 100% genre faire l'Alia où tu te dis genre elle reviendra jamais.
Ouais, dans l'enfer.
Vivre à Tel Aviv genre 3 mois, 4 mois par an et partir à New York, un peu à Kstatt, un peu à Dubaï, rentrer à Ibiza. Voilà, non. Mais je dirais quand même Tel Aviv, c'est une ville qui m'appelle vachement.
Il s'appelle comment ce restaurant super? On était allés dans
Il a fermé.
Hein?
Le vegan Zakaïm.
Ah.
Il a fermé, Rosa, j'ai pensé à toi. Et oui, je me suis pointée devant.
C'était bon.
Fermé définitivement.
C'est ouf le nombre de trucs vegan qu'il y a à Tel Aviv.
Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais étonnée qu'ils ferment.
Ah bah
c'était vraiment la mode et tout.
Ouais.
Ouais, fermé.
Et on est allé dîner dans un autre resto. Il y avait mon cousin. Wow, et je te souviens pas, il y avait un gars qui m'avait dragué.
Le Yom Tov Café.
C'était Yom Tov.
Il y avait un café qui s'appelait le Yom Tov Café où t'avais ton cousin et un pote qui nous avait rejoint.
Ah ouais.
Où il y avait une fille après qui nous avait rejoint et j'avais acheté son parfum. Et depuis, c'est mon parfum depuis 4 ans.
Putain.
C'est resté mon parfum.
Et t'avais pris le meilleur parfum et moi j'en avais choisi un qui était moins bon que le tien.
Ben moi, le mien, ça reste le mien depuis 4 ans et tout le monde m'arrête dans la rue n'importe où je vais.
Là, pour le coup, t'as eu du pif. Grâce à ton sacré nez.
Mais grâce à toi, parce que c'est la fille qui était venue rejoindre ton pote.
Ouais.
Donc ça, c'est marrant en fait. C'est un peu grâce à toi que j'ai ce parfum.
J'allais faire une boucle sur le nez que t'as mis sur la bite de Baptiste Le Caplat. Est-ce que ça commence pas à ce moment-là?
Le nez qui se développe.
Ton nez s'est-il c'est pas développé sur la bite de Baptiste Le Caplat?
Pour boucler la boucle, je te dis ok.
Ce que tu détestes par-dessus tout?
Les gens lents. Mais j'ai vraiment une phobie. C'est phobie, hein, c'est un niveau de phobie. Par exemple, j'ai vraiment, ça fout tellement la honte à mon mec à chaque fois. C'est-à-dire que je supporte tellement pas, je vais beaucoup aux toilettes, j'ai beaucoup faire pipi, donc beaucoup dans les lieux publics. Ça peut être à train, n'importe où. Et en fait, les gens qui mettent plus de, je pense, 45 secondes aux toilettes, je deviens folle.
Ouais, ouais, tu tapes sur la porte.
Je tape sur la porte, je fais comme si je savais pas qu'il y avait quelqu'un, je fais la poignée et tout. Et, tout. Et après, je m'énerve, je commence à pester contre les gens de l'autre côté de la porte. C'est carrément plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher. Ouais, voilà, les gens lents en général, je peux pas. Ou les gens, par exemple, vous avez, si tu gardes le petit passage sur l'administration, la mairie, tu supportes pas les gens lents où tu vois qu'ils font, qu'ils sont à 10% de ce qui devrait être en activité.
Ouais, mais tu trouves pas que les gens de mairie sont de plus en plus efficaces?
Non.
Ah non, ok, on va
j'ai
pas
fait mon passeport et celui de mon fils il y a pas longtemps et je te réponds non.
Ah, Bagnolet, je trouve que...
Ils se sont fait tirer les oreilles à Bagnolet.
Ouais,
hein.
La poste de Bagnolet, ils sont super rapides. T'as l'impression d'être dans une start-up.
Ah, pas la mairie, s'il te plaît, Rosa, reviens aux essentiels.
Oui, la mairie,
c'est dur, la mairie, ça reste toujours éternellement impossible.
Être... La mairie, ouais, c'est un exercice de...
Je peux pas. C'est un truc, il faut avoir l'application Petit Bouddha et faire un exercice.
Oui, mais pour moi, ça se justifie. Dans le sens où tu vas bosser dans une mairie, t'acceptes que ta vie soit régie par la lenteur. Ce que je supporte pas, c'est quand les serveurs sont lents. Là, t'es en mode, bah non, là, pardon, je suis désolée, mais t'es serveur dans le 10e, t'es rapide.
Ok.
Tu vois, si t'es en effet à l'accueil si d'une mairie.
Ok, bah c'est une belle façon d'accepter ton sort parce que moi je m'en remettrais jamais de ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment un vrai problème.
Non,
question,
mais tu peux pas demander aux gens qui bossent dans cette mairie d'être rapides.
Bah si, ça
qu'est-ce
serait bien
que tout le monde
pour...
change. Non, mais il n'y a pas de profit à se faire. La rapidité, ça va être.
Tu vois ce que je veux dire?
Mais bien sûr, la rapidité, c'est le profit.
Je comprends.
Ils ont quoi? Ils ont tout le formulaire, ils ont toute leur vie pour te le donner.
Tu as raison. Tu as très bien raison. Tu as mis le doigt sur un truc très juste.
C'est vrai. Comment aimerais-tu mourir?
Alors, j'ai le malheur de penser que je suis toujours immortelle. J'ai l'impression que ma famille et moi, secrètement, on est immortels et on le découvrira assez tôt. Tu vois, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à accepter que la mort me concerne. C'est très bizarre, hein, et concerne les gens que j'aime. J'ai l'impression que mon père ne peut pas mourir. J'ai l'impression que moi, en fait, Dieu va venir me dire un jour, en fait, je t'avais pas prévenu, mais toi, c'est bon.
toi, restes.
Toi, c'est bon, va. Toi, t'es à gauche, t'es dans la file de gauche. Je n'arrive pas à intégrer le concept de mort. Alors, je suis hypochondriaque et que j'ai des grosses angoisses, mais pour moi, l'idée de la mort, je ne peux même pas te répondre parce que c'est au niveau de mon entendement, je n'arrive pas à l'accepter. Encore. Pose-moi la question dans 50 ans, peut-être, mais aujourd'hui...
Ça serait trop drôle que je rappelle tous mes invités dans 50 ans.
Sur une plage à Tel Aviv, avec un petit cocktail, et tu me dis, alors c'est quoi ton idée de la mort? Et là, je te répondrai. Ouais. Là, je te jure, j'ai l'impression que non, je ne peux pas mourir, je suis immortelle.
Ton état d'esprit actuel?
J'ai très mal aux pieds à cause de ces Doc Martens. Ah ouais. Donc mon état actuel, c'est un peu de souffrance, mais mêlé à de la joie, et finalement, la joie d'être avec toi et de ce moment. Et du coup, un peu de souffrance et de la joie, c'est un petit peu mon état permanent de vie, de juive ashkenaz notamment. C'est souffrance et joie. Et l'un ne va jamais sans l'autre.
Bon, bah merci, je vous cite. C'était parfait comme conclusion.
Oui, c'est ça.
Bon, merci beaucoup.
Bah, merci à toi.
Et voilà, c'était Joséphine Dry. J'espère que vous avez bien rigolé avec nous. L'épisode a été enregistré le 2 mai. Depuis, non, je n'ai pas fait de liposuction des ailes de Batman. J'ai eu un callback, mais justement, n'ai pas été prise pour le casting sur Prière d'enquêter où j'avais tant pleuré, voilà, justement, parce que je suis humoriste. Même si mes essais étaient bons, un producteur a eu peur du côté comédie. Donc c'est exactement le sujet de ma discussion avec Joséphine aujourd'hui. C'est fou, quoi, on l'avait deviné. Le 2 mai, j'avais 32 ans. Entre-temps, j'en ai bien eu 33. Et ma petite sœur a accouché d'un un beau bébé. Grâce à Joséphine, en l'écoutant, je me force, comme elle dit, à dézoomer. Je partage ses traits de caractère, je suis aussi impatiente et obsessionnelle, mais je suis si bien entourée, quel bonheur d'avoir des copines aussi drôles et talentueuses à mes côtés. Et pour finir, je vous propose, dans le ton de cet épisode, une chanson d'Enrico Macias, Le mendiant de l'amour.
chaîne, l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses car maintenant le bonheur n'est plus à vendre, le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on restera toujours les mêmes. Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour. Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra.
Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra.
Alors laissez-moi vous dire la générosité. C'est une larme, un sourire à partager. Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi. Je n'ai pas de compte à rendre, écoutez-moi. Je chante ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra.
Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour.
Je chante ceux qui m'aiment et je serai toujours le même.
Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour.
Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.